Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Silence en joueur, Juan Cario, bonjour. Au programme cette semaine de cette troisième émission de la 14e saison de Silence on joue, on va parler, bah oui, parce qu'on va commencer à rattraper l'actualité. Alors on pourra parler un peu des jeux qu'on a ratés, des jeux dont on ne parlera jamais dans Silence on joue. Mais en tout cas, cette semaine, on va parler de Spelunky 2, de Baldur's Gate 3, l'Early Access, de I Am Dead, et on finira par ce jeu très réaliste de Paradise Killer. Voilà, programme raisonnable par rapport aux dernières émissions, mais il en faut aussi des émissions peut-être un peu plus normales, mais programme quand même assez chargé. Je pense qu'il y aura pas mal de choses à dire, et je commence en accueillant trois de mes chroniqueurs favoris. Je commence avec toi, Corentin Benoît Gonin. Comment ça va, Corentin?
Salut Erwan, ça va très bien.
C'est vrai, c'est cool depuis la semaine dernière.
Oui, tout va bien. Ouais, tout va bien.
Julie Le Baron, salut Julie.
Salut.
Ça et va? Ça va toi aussi?
Bah écoute, nickel.
C'est bon, la saison est lancée, c'est plein de
on
jeux.
On a fait le premier podcast de 3 heures, c'est bon, ouais. Je sais que je peux tenir là, sur toute la saison.
C'est vrai, t'as survécu au pire de l'histoire. Et Marius Chapuis, salut Marius.
Quel troll, c'est pas possible.
Oui, bonjour, pardon pour le micro de la semaine dernière, il était bien le micro, c'était juste le Mac qui déconnait, du coup ça faisait un son dégueulasse.
Ouais, voilà. Ça faisait un son vraiment pas terrible, mais c'est corrigé cette semaine, et ça c'est cool, parce qu'on va avoir une qualité. Ah oui, alors, et petit point technique, allez tiens, on va faire le point technique de la semaine. Le podcast de la semaine dernière, il semblerait qu'il y ait eu pas mal de gens qui aient eu des boucles à l'intérieur du podcast, alors qui apparaissaient soit sur le Super Mario 3D All-Star, donc la discussion entre Corentin et Patrick, soit sur Hades, hein, c'était selon les personnes, et donc le podcast se mettait à boucler sur des boucles de 3, 4, 5 minutes jusqu'à la fin, donc c'était pas hyper pratique, et pour le coup en fait on savait pas trop d'où ça venait, et a priori c'était que les personnes qui n'étaient pas en France, donc qui écoutaient le podcast depuis un pays différent, et a priori donc ça devait être une mauvaise réplication sur des serveurs, enfin j'en sais rien, pour vous dire j'ai aucune certitude là-dessus. Du coup, alors pour ceux qui ont eu un problème, j'ai réencodé, réuploadé tout ça, donc j'espère que ça a corrigé le souci. En tout cas, toutes nos excuses, c'est vrai qu'entre un micro qui sature et le podcast qui boucle, ça commence à faire beaucoup, mais c'est pas grave, on va corriger ça, et puis c'est, hein, voilà. C'est un petit podcast qui débute, hein, donc c'est normal, les soucis techniques, vous comprenez. Donc on va commencer, on commence par, je crois qu'on en avait parlé la semaine dernière, je crois, c'était donc l'annonce de la fermeture des bureaux européens de Blizzard, et donc il y a eu à ce propos, Julie, une actualité sociale.
Oui, donc ce mercredi 14 octobre, il y a eu un appel à la grève pour les employés de Blizzard en France. Suite à l'annonce de la direction, quand la direction a annoncé qu'elle voulait fermer le site, parce que ça représente quand même 285 emplois. Ouais. Et c'est quand même les grèves dans l'industrie du jeu vidéo en France, c'est quand même un fait assez rare pour être signalé. La dernière fois, c'était en 2018 avec Eugène System, si je ne m'abuse, et encore
oui,
avant ça.
Un très long mouvement social.
Ouais. Et encore avant ça, c'était en 2011, donc 7 ans plus tôt, du côté de Eden Games. Et bref, donc les revendications, donc pour l'instant, c'est l'abandon du projet de fermeture, le développement de l'activité Blizzard en France et l'investissement dans la prévention des risques psychosociaux. Parce qu'en gros, ce qu'ils expliquent, c'est que le climat de travail s'est tellement dégradé qu'ils ont dû saisir l'inspection du travail, quoi.
On rappelle aussi que Activision Blizzard n'est pas une entreprise en déficit, n'est pas une entreprise qui perd de l'argent, que le jeu vidéo n'est pas un secteur en décroissance, donc là c'est typiquement un cas d'optimisation financière. C'est vrai que là, pour le coup, les salariés de Blizzard en France sont vraiment des victimes collatérales de décisions prises à un niveau largement au-dessus pour des motifs de résultats financiers et ce genre de choses, ce qui rend l'affaire vraiment assez insupportable.
Ouais, et d'après ce que rapportait le Parisien aussi, c'est que... suite à la première réunion du CSE et de la direction, en gros, se contentait du minimum légal d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Il n'y avait rien de plus de prévu pour l'instant pour les 280 personnes qui sont visées par le truc.
Mmh. Ouais, puis pour revenir sur ce que tu disais, Erwan, il y a Oscar Le Maire qui a posté un rappel assez salutaire sur Twitter ce matin ou hier. Qui rappelle qu'en gros, sur les 6 premiers mois de 2020, le chiffre d'affaires de Blizzard, c'était quand même 914 millions de dollars, qui constitue une progression de 26% par rapport à 2019. Donc, si on se disait ce qu'ils ont été impactés négativement sur leur chiffre d'affaires à cause du Covid, la réponse est évidemment non.
Non, le jeu vidéo survit très bien. Enfin, c'est pas un des secteurs qui souffre le plus du Covid. En tout cas, en termes de vente, en termes de développement, c'est autre chose, évidemment. Mais en termes de vente, c'est pas le fait d'avoir un couvre-feu qui va nous obliger à rester chez nous entre 21h et 6h du matin qui va faire du mal aux jeux vidéo, je pense. Enfin, j'ai un doute. On change totalement de sujet, mais c'est un truc assez intéressant, je trouve. C'est 2K qui a annoncé une utilisation, en tout cas peut-être une utilisation originale des manettes responsives des consoles nouvelle génération.
Ouais, il y a deux numéros, on râlait sur le NBA 2K21 qui est sorti sur les current gen qui était assez nul et flemmard. Là, il commence à détailler un petit peu ce qui arrivera pour la next gen, et un des trucs intéressants, c'est cette utilisation par un éditeur tiers, donc du responsive de la nouvelle manette, avec notamment, par exemple, sur l'usure, la fatigue des joueurs, ils promettent que la gâchette droite donc sera plus dure à enfoncer pour rendre ce truc sur le terrain. De la même façon, les vibrations devraient être un peu différentes en fonction des contacts physiques entre les joueurs quand tu joues au poste et que tu es un joueur, un pivot ou un ailier. Donc ça peut être assez marrant. Moi, ça fait partie vraiment des trucs qui m'intéressent le plus sur la next gen, qui est finalement peu fun de loin. Et voir qu'un éditeur tiers s'empare de ça, c'est plutôt bon signe, je trouve.
On rappelle, pour ceux qui ne sont pas habitués des jeux de sport, c'est que la gâchette droite, c'est le sprint. Donc, c'est quand tu joues au basket ou au foot ou n'importe quoi, c'est vrai que c'est généralement avec une jauge de fatigue qui monte ou qui descend vite. Mais c'est une gâchette super importante parce que c'est là où les contre-attaques ou ce genre de choses... Et c'est vrai que s'il y a une sorte de pression différente en fonction de la fatigue du joueur, je trouve que c'est une utilisation qui est d'un côté simple, donc elle va pouvoir être peut-être généralisée et peut-être devenir une sorte de standard, et de l'autre côté, qui peut être intéressante. Je pense que ça peut avoir un effet d'immersion qui est assez sympa.
J'ai l'impression que c'est un serpent de mer quand même, ces histoires de retour haptique par rapport aux gâchettes. J'ai l'impression que ça fait 3 générations qu'on nous le promet et que ça arrive, ça arrive pas toujours.
Je sais pas, ils ont tellement insisté là-dessus sur la com de la PS5, qu'en gros, c'est pour l'instant, la PS5, c'est un SSD et une manette responsive, quoi. D'accord. Donc, ça a plutôt intérêt à être un petit peu sensible. Effectivement, pour l'instant, on est dans le domaine de la com, puisqu'on n'a pas mis la main sur la console et qu'on ne sait pas exactement ce que ça fait. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai un peu confiance là-dedans.
T'as envie d'y croire, quoi.
Ouais.
Comme les Motion Engine, t'as envie d'y croire.
Les Motion Engine, oh là là, souvenez-vous. La seule question, c'est la résistance du truc, quoi. Vu que les joueurs sont quand même des brutes, on est d'accord. Le truc, c'est que s'il y a un retour haptique avec la gâchette qui est plus résistante, les gens vont appuyer comme des brutes sur cette gâchette. Elle a intérêt.
Casser ta manette à 80 euros.
Ouais.
Surtout que sur cette génération, on ne peut pas dire que Sony ait fait les manettes les plus solides. Voilà quoi. Donc j'ai un peu peur aussi.
Non, c'est clair, c'est clair. Bon, ça a intérêt à être résistant. Corentin, tu voulais nous parler d'un jeu qui a cartonné, dont on n'a pas parlé encore dans Silence on Joue, et qui est vraiment un des énormes, avec Fall Guys évidemment, un des énormes succès de cet été, notamment sur les services de streaming, comme Fall Guys d'ailleurs.
Bah, en fait, c'est vrai que c'est un peu le jeu qui a succédé à Fall Guys, peut-être, dans la grande hype de cet été. Et là, j'ai vu passer une petite news, donc je m'étais dit que c'était le moment de faire le point sur ce qui s'est passé cet été, parce qu'on n'a pas pu en parler dans Silence on Joue. Donc Among Us, donc énorme sensation, on va dire, sur Internet, Twitch, les réseaux sociaux, tout le monde en parle. Il s'agit d'un jeu, on va dire, qu'on peut associer au loup-garou, ce genre de jeu. C'est-à-dire qu'il y a des traîtres dans un groupe et il faut trouver qui est le traître, sachant que ces mêmes traîtres, raccourcissent les gens entre les manches qui ne peuvent plus jouer ni parler, vraiment comme dans le loup-garou. Et c'est un jeu qui pourtant est sorti en juin 2018, hein. Donc ça, il y a un moment, il était sorti sur mobile, il est sorti genre quelques mois plus tard sur Steam, mais ça n'a pas vraiment marché, les gens n'en ont pas trop parlé, il est passé assez inaperçu, sauf en Corée du Sud et au Brésil, où là ça a un peu marché en l'occurrence. Et là, il a connu un revival absolument incroyable, donc en fin d'été, donc fin août, début septembre, et ce pour la grâce à la conjonction en fait de plein de facteurs. Il y a eu le Covid évidemment, hein, qui a un petit peu coincé tout le monde à la maison, donc il fallait trouver de nouveaux jeux à faire. Il est passé gratuit le 11 juin 2020 sur mobile, ce qui a incité plein de gens à le télécharger. Et des Twitchers célèbres en fait l'ont popularisé, notamment alors Soda Popin, qui a 2,7 millions de followers sur Twitch, et beaucoup de gens lui attribuent la popularisation en fait du jeu. Et le résultat est assez dingue, ça fait, parce que les développeurs ont déclaré plus de 100 millions de téléchargements en septembre. Début septembre, c'est pas mal. Et un pic de joueurs à 3,8 millions de joueurs simultanés fin septembre. C'est énorme. Donc, ils avaient annoncé une suite, mais au 23 septembre, devant le succès de leur jeu, ils ont dit hop, on ne fait pas de suite, on va plutôt créer du contenu supplémentaire pour le jeu. Parce que
il y a des maps différentes et tout ça. Donc, eux, s'ils rajoutent des maps, des nouvelles maps avec des nouvelles activités à faire pour les joueurs qui ne sont pas les imposteurs, enfin, ça va être. Ouais, voilà, c'est ça, c'est du nouveau contenu. C'est un jeu qui est très compatible avec du nouveau contenu, en fait.
Oui, absolument. Mais il suffit de rajouter une map, je pense, pour refaire tourner la machine médiatique, que les gens parlent, que tous les Twitchers se mettent à fassent des soirées pour essayer la nouvelle carte. Mais là, déjà, il y a une bêta donc, qui arrive pour Steam, en l'occurrence, pour la version Steam, et avec quelques options en plus. Donc, une option cool qui est de rajouter l'accessibilité sur les jeux qui demandent de la couleur. Donc, ça, c'est toujours bien de rajouter ça. Ils vont rajouter l'option d'avoir des votes anonymes, parce que vous avez des phases donc, de jeu où les joueurs normaux doivent effectuer des tâches dans le vaisseau et les assassins doivent tuer les gens sans se faire prendre. Les votes, on pourra les rendre anonymes, ce qui dans les gros joueurs de Fall Guys, Among Us, ceux qui ont l'habitude de jouer, qui détectent le moindre vote de travers de la part des adversaires, va rendre la tâche un peu plus ardue pour trouver les imposteurs. Et puis on va aussi pouvoir rendre la barre des tâches invisible à différents moments de la partie. Donc la barre des tâches, c'est une barre qui se remplit au fur et à mesure que les joueurs normaux, les non-imposteurs, font leurs tâches. Et quand elle est remplie, en fait, les imposteurs ont perdu. Et on va pouvoir la rendre invisible à différents moments. Ce qui fait que, par exemple, si quelqu'un fait sa tâche, on ne pourra pas voir immédiatement si la tâche se remplit, ce qui rendra encore plus compliqué d'identifier qui est bel et bien un membre de l'équipage et qui est un imposteur. On pourra aussi la rendre visible genre que pendant les réunions. Donc, en fait, on verra la barre se remplir, mais qu'à intervalles très espacés, on va dire. Donc, plein de petites options histoire de rafraîchir un peu le gameplay. C'est vrai, alors moi, je n'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer, mais je regarde énormément de streams. C'est une drogue dure, c'est terrible, de gens qui jouent à Among Us. Et c'est vrai que les gens, une fois qu'ils sont très, très bons, c'est-à-dire qu'une méta-game se met en place, et c'est vrai que c'est un peu toujours les mêmes histoires qu'on voit se recréer face à nous. Et du coup, rajouter un petit peu des nouveaux éléments de jeu pour un petit peu diversifier les parties, je pense que c'est une très bonne chose pour garder le jeu frais et peut-être maintenir un succès sur la durée.
Alors le fait est que on en parlait avant l'émission parce que je me posais des questions. C'est un jeu où c'est un jeu multijoueur sur le modèle du loup-garou de tierce lieu qu'on connaît forcément. Le fait est que c'est principalement pour jouer avec des amis, des connaissances, un cercle en tout cas d'amis, ou enfin de gens qu'on connaît, pour se retrouver sur un serveur Discord en même temps qu'on joue, pour que les phases de débat se fassent en vocal et non pas en chat écrit, parce que ça, c'est le truc qui rend... Et c'est vrai que c'est un jeu qui est assez peu compatible avec le fait de jouer avec des randoms, enfin des gens qu'on ne connaît pas sur un serveur distance, ce qui est possible, mais qui rend l'opération un peu compliquée. Donc voilà, c'est, d'un côté, c'est assez marrant parce que c'est limité, c'est vraiment une limitation forte, mais c'est un succès quand même.
Là, c'est un succès quand même parce que les gens en fait se sont rendus compte que bah, ils pouvaient attribuer une touche sur le clavier pour passer immédiatement en mute quoi et en fait c'est tout à fait un jeu qui est on va dire tu peux le rendre tout à fait analogue à un jeu en réel en physique dans la même salle quoi. Ouais. Donc ça a pas dérangé les gens plus que ça soit pas intégré. Après franchement rien ne pourrait empêcher l'équipe de développement de le rajouter, mais ça marche déjà tellement bien juste avec Discord. En fait je pense le mieux qu'ils pourraient faire c'est d'intégrer peut-être des API Discord pour que ça se fasse automatiquement, que les morts se retrouvent dans un salon à eux, que les vivants restent dans un autre salon, je sais pas. Mais honnêtement, ça marche déjà tellement bien. Je serais l'équipe de développement, je ne toucherais même pas à ça.
Écoute, on suivra les mises à jour si ça vaut le coup de Among Us.
Donc, de toute façon, ça vaut le coup, c'est gratuit sur mobile. Donc allez-y, hein, c'est gratuit sur mobile.
Oui, puis c'est que dalle sur...
Et c'est 4€ sur Steam, c'est rien.
Oui, c'est ça. Le com des coms de la semaine dernière. Alors, je me suis surtout concentré sur un des jeux dont on a parlé, qui est un jeu absolument énorme, sur lequel je suis encore, je suis vraiment tombé dedans, ce qui m'inquiète un petit peu, mais bref. Je commence avec Orcrown. L'émission m'a fait venir m'inscrire, donc bonjour. Donc on te dit bonjour, parce que bienvenue dans les forums officiels de Silence en Joue. Et alors que jusqu'alors, j'interagissais de façon très superficielle. Mais la critique faite à Hades comme un jeu au mécanisme de free-to-play me semble totalement injuste. Je suis actuellement à 145 heures, dont une vingtaine d'heures après la bêta. Et d'expérience, le jeu ne commence vraiment qu'à partir de la première évasion. Je ne veux pas spoiler, mais le côté monté en puissance devient important pour contrebalancer les pénalités des contrats des enfers, dont les récompenses permettent d'augmenter la puissance des armes de différents objets et de débloquer des aspects qui changent profondément le gameplay du jeu. De nombreuses et riches trames narratives ne peuvent en outre exister après une petite dizaine d'évasions, et tant que les contrats ne sont pas disponibles, le joueur est limité en évolution par certaines ressources rares. Alors, cher Orcrown, je comprends que qu'on puisse se sentir blessé par le fait que j'ai qualifié un jeu de mécanisme de free-to-play, mais la description que tu viens d'en faire est exactement ce dont je parle. Hein. Donc, c'est quand tu parles de choses qu'il faut débloquer pour avancer et de choses qui sont absolument nécessaires parce que le jeu gagne en difficulté, etc., on est clairement sur ce type de mécanisme. C'est exactement ces mécaniques-là dont je parlais quand on parlait avec la multiplication des monnaies d'échange dont on parlait la semaine dernière, Corentin. C'est exactement de ça dont on parlait. Il finit en disant « Je ne serais que conseiller à Erwan qui voulait y replonger de le faire de bon cœur. » Oui, bah oui, je l'ai fait. j'ai fini 3 runs, hein, donc je suis mort plusieurs fois à la fin, mais j'en ai fini 3, donc je ne désespère pas de continuer et je suis très très motivé, il n'y a pas de problème. Bref,
je voulais continuer, mais il y a eu Spelunky entre temps, donc c'est compliqué là.
cette version finale du jeu est grandiose, l'histoire est réellement surprenante et constitue un effort de réécriture de la mythologie très fouillée et très actuelle. Le jeu permet également d'activer un mode dieu qui augmente la résistance aux dégâts progressivement. Enfin voilà, pour tout dire, je suis totalement accro à Hades, mais bon, bref, pour continuer là-dessus, il y a eu une discussion, et alors je remercie donc Yaourt qui est donc contributeur sur les forums, c'est sur ce qu'est un rogue-like et un rogue-lite. Alors, il donne une définition que je trouve très claire, donc je la lis. Pour clarifier les choses, un rogue-like est un jeu dont toutes les runs sont faites dans les mêmes conditions. Permadeath, génération procédurale des niveaux et autres règles comme le combat au tour par tour, par exemple. Ce qui sort de nos jours, ce sont majoritairement des roguelites qui reprennent les deux premiers critères et très rarement le troisième et introduisent une notion de progression d'un run à l'autre. C'est le cas de Rogue Legacy, Binding of Isaac, Dead Cells, Hades pour ne citer que. La progression peut soit être un renforcement du personnage, de nouveaux power-ups qui se débloquent, de nouvelles zones accessibles, de nouveaux ennemis, etc. Une fois qu'on a tout débloqué, le jeu devient un rogue-like sur les deux premiers critères du monde. Des fois, il y a aussi des modes de jeu custom, comme dans Dead Cells, où on peut figer des règles, des objets, etc., identiques d'une run sur l'autre, et donc retrouver des sensations de rogue-like sans la nécessité de finir et de tout débloquer. Voilà pour la définition. Je le remercie parce que j'étais un peu perdu, moi, sur... Mais voilà, c'est en fait...
Non, puis on a dû mélanger roguelike et roguelite. Enfin, moi, je sais qu'à un moment donné, je me suis repris sur le mot light ou like, alors que je voulais en dire un, puis j'ai dit l'autre, et du coup, je pense que ça n'a pas dû rendre les choses très claires non plus, donc désolé.
Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur rogue? Tu vois,
On va dire rogue.
Tout à l'heure, on va parler de Spelunky, qui est quand même peut-être un des plus gros roguelike actuels, en l'occurrence, puisque les runs se ressemblent. Donc, bon, partez du principe que Spelunky, c'est un roguelike, et on dira que rogue, voilà.
Et enfin, Oyoyo qui dit « Je rejoins complètement le parallèle avec Slay the Spire. Une partie ne ressemble jamais à une autre. L'éventail des combinaisons possibles entre les bienfaits, les armes et les modificateurs de dédale est gigantesque. Et chaque run ne laisse qu'un choix limité dans cet éventail. On a aussi un système analogue aux ascensions, une fois la première évasion réussie, mais plus fin, puisque c'est aux joueurs de choisir les pénalités qui augmenteront la difficulté. Et il y a un moyen d'aller bien plus haut que les 15 niveaux de difficulté de Slay the Spire. » Enfin, Slay the Spire est un jeu que je suis toujours content de relancer et je sais qu'Hades, ce sera la même chose.
C'est toi, Erwan, qui a écrit ce commentaire ?
Ça aurait pu être moi. Ça aurait pu être moi. Ça aurait pu être moi. On est exactement sur la même longueur d'onde avec Oyoyo sur ce point-là, parce que je ressens exactement le même enthousiasme sur Hades que sur Slay the Spire.
Parce qu'il faut comprendre les semaines où je teste des jeux pour Silence on Joue, il y a toujours la même chose qui se passe. Quand j'ai Steam ouvert, je vois Erwan qui joue au jeu qu'on doit tester, puis 10 minutes plus tard, Erwan joue à Slay the Spire. Ça ne manque jamais.
Il y a un moyen de virer le fait que les autres savent
à quoi on joue. C'est bien qu'on voit jouer à Slay the Spire.
C'est terrible.
C'est un moyen de te contrôler.
Ouais, je sais. Mais j'ai un jeu, à chaque fois, il me faut un jeu comme ça. Ça va être NBA 2K, ça va être Slay the Spire, ça va être en ce moment, c'est Hades. Voilà, c'est
un jeu doudou.
Voilà, c'est le jeu doudou dont tu parlais, Marius, la semaine dernière.
Ouais.
On va commencer, alors moi j'ai très vite fini pour le coup, avec un rogue-like dont tu parlais tout à l'heure. C'est donc la suite du premier Spelunky sorti il y a quelque temps. Aux commandes, c'est toujours Derek Yu, et là c'est Spelunky 2, c'est toujours le même enfer.
Dear Anna, if you're reading this, Mom and Dad are somewhere down below. We might even be stuck. Did you see the giant Olmec up on the surface? We've been in the moon for what feels like many months already, but it's hard to tell. Just like before, time and death work differently down here. It feels like we've slipped into another crack in the universe.
Spelunky 2. Alors, je vais commencer parce que ça va être court de mon côté. Donc, on joue Anna. Et d'autres personnages, mais le scénario, c'est Anna qui essaye de retrouver ses parents sur la Lune ou un truc comme ça, sur une planète lointaine, je ne sais plus.
En tout cas, sur la Lune.
Avec son petit vaisseau spatial, elle rentre dans une grotte. Va-t-elle réussir à en sortir? C'est tout le sujet. Je vous résume mon expérience de Spelunky 2. Je lançais le jeu, je suis mort. J'ai relancé une partie, je suis remort. J'ai relancé une partie, je suis remort. Et j'ai fini par quand même relancer une partie qui a fait mon run le plus long de 2 minutes 10. Donc j'ai relancé Hades. Donc, sur ce, je vais vous laisser la parole. On va commencer par toi, Corentin, parce que pour me renseigner un peu sur Spelunky 2, j'ai été sur Twitch et j'ai regardé tes essais erreurs vis-à-vis de ce jeu. J'ai vu par exemple que tu étais arrivé à un boss, que tu étais mort et que tu avais mis facile 2h30 à revenir au même boss ensuite. Et tu étais remort et tu avais abandonné le jeu. Voilà.
Un peu le jeu, juste pour ce soir-là, non. J'ai arrêté.
Voilà.
Ouais, donc Spelunky, voilà, comme tu le dis, hein, le jeu où on meurt en boucle et en boucle et en boucle. Et bon, ça peut être un peu frustrant, mais on y prend goût, on devient tout doucement, mais sûrement masochiste hein, avec ce Spelunky. Donc tu l'as dit, Spelunky, donc, c'est la suite du Spelunky de 2012 hein, qui était sorti sur le XBLA à l'époque. Et donc c'est un roguelike de plateforme, donc on ne va pas refaire la définition de tout à l'heure, mais grosso modo, vous recommencez depuis le début avec... zéro équipement voilà, même étape, et les niveaux sont générés de manière aléatoire. Donc là, on est vraiment dans le roguelike. La seule chose qu'on peut débloquer dans le jeu, en fait, c'est des raccourcis qui permettent d'atteindre différentes strates directement.
Oui.
Mais un peu comme dans les, on va dire, les shoot'em up de l'époque, ça ne sert pas à grand-chose d'être à poil très profond. Donc, oui. enfin, on va pas aller beaucoup plus loin. Ça sert juste simplement à se familiariser avec les différentes strates et s'entraîner. Mais à part ça, vraiment, les runs redémarrent de zéro à chaque fois, ce qui est à la fois vertigineux, mais moi, je trouve ça bien. Moi, je trouve ça... Je suis plus fan de roguelike, hein, justement, que de roguelite, qui ont tendance à m'ennuyer un peu plus. Mais après, c'est une question de goût, encore une fois. Et donc, on recommence à chaque fois. Et en fait, c'est le joueur lui-même qui va progresser plus que son personnage. Donc, Spelunky, c'est toujours cet univers un petit peu à la Indiana Jones, où en fait, on joue un aventurier... avec son chapeau et son fouet, vraiment très, très classique, qui va devoir se battre contre des ennemis, qui va croiser des marchands, qui va croiser alors des chiens, des chats et des chinchillas, on va dire.
Des hamsters aussi, je crois. Ah non, c'est des hamsters, ouais.
Ah non, t'as 13 ans, c'est sûrement des hamsters, en vrai. Je trouvais qu'ils ressemblaient un peu à un chinchilla, mais tu as sûrement raison. Qui remplacent les demoiselles, les demoiseaux de Spelunky 1, mais qui rendent toujours un point de vie quand on arrive à les emmener à la fin du niveau. Donc, on est toujours armé de cordes et de bombes et de différents objets qu'on va trouver soit dans des caisses, soit chez le marchand contre de l'argent. Il y a toujours ces idoles en or qui, encore une fois, à la Indiana Jones, vont déclencher des pièges... absolument mortels qui vont tout casser, qui vont vous faire tomber des torrents de lave sur la tête ou vous faire courir une... vous lâcher un boulet, enfin un boulet, une roche, une boule de roche qui va lancer une boule de roche à votre poursuite.
J'ai voilà, vu ce passage sur ton Twitch d'hier, j'ai vu ce passage avec l'idole dorée et la boule énorme qui te tombe sur le crâne et qui te fait perdre d'un coup. C'était...
Et oui, il y a différents...
C'était douloureux, même à regarder, c'était douloureux.
Un piège par strat, hein, mais au bout d'un moment, on finit par... c'est vraiment comme dans Indiana Jones. Vous vous souvenez de cette scène dans Indiana Jones, le premier, où Indiana Jones qui est là avec son petit sac de riz ou je sais pas quoi, et qui doit le remplacer l'idole pour pas déclencher le piège. Bah, au bout d'un moment, ça devient le même niveau, on va dire, d'expertise pour ne pas mourir dans le piège. Vous êtes capable d'analyser si je prends cette idole et que je pars vers la gauche, je vais me prendre ce bloc en métal sur la tête, donc il ne faut pas que j'aille à gauche, il faut que j'aille à droite. En même temps, à droite, je vais être coincé par la lave, ok, je ne prends pas l'idole. Voilà, ce genre de réflexion qui en fait se font en un quart de seconde. Mais en fait, je pense que cette notion-là, en fait, d'analyse et de comment dire, de scanner, d'analyser immédiatement tout l'environnement et de comprendre par où on peut passer, dessiner un chemin dans sa tête, se dire si je veux passer par là, il va me falloir un caillou pour virer le mec là qui m'empêche de passer, il va me falloir un objet n'importe lequel pour déclencher le piège qui me bloque le chemin, sinon je vais prendre deux points de vie, ça va m'énerver. Continuer là vers la droite, il y a un chien, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut pas le coup, il y a quand même quatre ennemis entre moi et le chien qui me permettrait de récupérer un point de vie, est-ce que ça vaut le coup de perdre un point de vie pour gagner un point de vie, je ne suis pas sûr. Là-bas il y a une caisse, la caisse quand même c'est bien, est-ce que j'utilise une corde, une corde j'en ai plus beaucoup, est-ce qu'il y a moyen d'utiliser plutôt une bombe pour récupérer cette caisse. Ah, si je récupérais des bombes dedans ou des cordes, ça serait bien. Voilà, c'est que des calculs tout le temps. C'est des choix stratégiques, mais tout le temps, il faut se poser plein de questions, peser le pour et le contre. C'est vraiment du risk-reward H24. Et c'est vrai que on va dire, cette vitesse d'analyse et cette vitesse de, comment dire, ne pas rater en fait les éléments importants qui constituent le niveau, donc qui encore une fois généré aléatoirement à chaque fois, hein. Donc vous pouvez pas apprendre par cœur. C'est là en fait où le skill de la personne va augmenter. C'est en améliorant cette capacité justement à analyser et à peser le pour et le contre pour qu'on va arriver loin dans les parties. Et ça marche toujours aussi bien dans ce Spelunky 2, c'était déjà le cas dans Spelunky 1, mais ça marche toujours aussi bien dans Spelunky 2 qui rajoute, c'est Spelunky 2, c'est Spelunky plus, quoi. C'est-à-dire qu'on a des nouveaux monstres, des nouveaux boss, des nouveaux objets. On a régulièrement, en fait, des croisements Donc, on va pouvoir choisir entre deux biomes différents. Donc, avant, dans Spelunky 1, on avait les caves, puis on avait la jungle, puis on avait la glace, puis on avait le temple, puis on avait l'enfer. Et c'était toujours dans cet ordre-là, avec quelques biomes spéciaux de temps en temps. Là, maintenant, on a d'abord les grottes, enfin la mine. Et puis ensuite, on a le choix entre le niveau du feu ou alors la jungle. On va prendre l'un puis l'autre, puis on va arriver au même endroit ensuite. Puis ensuite, on aura le choix entre le niveau de l'eau ou alors le temple qu'on a déjà dans Spelunky 1. Et puis ensuite, on va arriver au même endroit. Puis ensuite, voilà. Donc, c'est, en fait, on aura des embranchements, ce qui laissera le choix aux joueurs. Et je crois que tous les anciens biomes sont là. Donc, on peut, je crois, dire, sans trop prendre de risques, évidemment, je n'ai pas tout vu, mais qu'ils ont doublé, ils ont dédoublé le nombre de biomes disponibles dans ce jeu-là. Donc voilà, Spelunky 2, si vous n'avez pas aimé Spelunky 1, vous n'allez pas aimer Spelunky 2, je pense. Mais ceux qui ont aimé Spelunky 1, vous allez avoir le double de contenu dans un seul jeu. Donc
est-ce
voilà
est-ce qu'on peut parler pour les jeux de ce genre d'une sorte de mur du désespoir ? Il y a un mur du désespoir qu'il faut franchir.
Ah oui, complètement, ouais. Ouais.
Et si on n'arrive pas à le franchir, c'est très dur quand même. C'est que très vite, on se dit, c'est pas fait pour moi et tout ça. Est-ce que toi, Julie, est-ce que tu es passée très vite du côté je persévère, je vais au bout, c'est un jeu pour moi, je vais au bout et tout ça, il me fait pas peur ? Parce que moi, je suis pas du tout passée là, hein. Moi, j'étais très vite. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a un moment à passer, il y a un truc à passer vis-à-vis de ce genre de jeu, non ?
Oui, bah, comme disait Corentin, il y a un moment, en fait, il faut que tu acceptes de devenir complètement masochiste, quoi. C'est moi, mon premier run, enfin ma première session, elle ressemble exactement à la tienne. Je suis morte 8 fois de suite, souvent au bout de 30 secondes, souvent en activant des pièges, par exemple en voulant casser une jarre, et en fait, de la jarre sort un fantôme. Dès que je touche le fantôme, je meurs instantanément, alors que j'avais 4 points de vie. Mais je trouve qu'il y a dans Spelunky 2 un peu la même bienveillance qu'un autre jeu masochore bien célèbre, que Céleste, en fait. Il y a vraiment un... Par exemple, un moment, donc je suis morte la 9e fois, mais dans mon journal, donc où je voyais ma mort, j'avais une espèce de replay de ma mort, il y avait écrit la mention « Je ne suis jamais allée aussi loin ». Et ça, tout de suite, ça m'a vachement motivée. c'est fou, en fait. Enfin, c'est un jeu qui te récompense aussi dans tes erreurs et qui est amusant même dans l'échec. Et honnêtement, après ces 9 premières morts, j'avais quand même appris quelque chose. Par exemple, ne jamais marcher sur un serpent sans évaluer la distance qui le sépare de ton fouet.
On apprend vraiment avec les échecs. Ça, c'est vraiment... C'est vrai ce que tu dis.
Honnêtement, je ne suis pas allée très, très loin dans le jeu, mais j'ai l'impression d'avoir appris énormément de choses. J'ai eu des foirages monstrueux, comme... après, il y a les commandes n'ont pas changé, il me semble, depuis Spelunky 1. Donc, mais par inadvertance, j'ai lâché une bombe dans un chien marchand qui s'est énervé et qui m'a défoncé avec son fusil. Mais bon, ça m'a appris une notion à savoir ne jamais énerver un marchand et n'importe quel
classique. PNJ.
C'est un grand classique. Pareil, ne jamais sauter sur une dinde... Parce que voilà, dans un truc qui me semble qui est inédit par rapport au premier, c'est que tu peux chevaucher des montures. Tu peux, par exemple, sauter sur une dinde qui va partir et courir dans tous les sens jusqu'à ce que tu l'apprivoises. Ça prend environ 3 secondes, mais 3 secondes, c'est suffisant pour mourir. Hein. C'est vraiment... T'as vraiment l'effet machine de... Je sais plus comment on les appelle, les machines de Goldberg, quoi.
Goldberg, ouais.
Ouais, c'est ça. Tu te dis, j'ai encore 4 points de vie, mais en fait, tu tombes sur la dinde qui va te faire tomber contre un lézard à cornes qui lui-même va te faire tomber contre un piège totem. Enfin, et ça crée... Enfin, moi, ce que j'aime beaucoup dans le jeu, c'est le côté... t'arrives dans un monde qui a ses propres lois et qui vit ultra bien sans toi. Parfois, à peine tu sors du niveau, tu vois une flèche qui va éventrer un lézard à cornes. Moi, il y a eu des moments où je voulais... À chaque fois, j'ai envie de ramener le chien, mais le chien ou l'animal, ça peut être n'importe quel animal, on peut changer, mais... À chaque fois, j'ai envie de ramener le chien, parce que c'est quand même hyper agréable de gagner un point de vie à la fin. Mais le nombre de fois où j'ai défoncé le chien et j'ai ramené une carcasse de chien mort, en ayant perdu une carcasse de chien mort, mais c'est arrivé plein de fois. J'ai eu un moment mais particulièrement violent où
c'est
le
quand
chien,
même un beau média.
Le piège totem, il était condamné à se faire écraser par le piège totem. C'était mais d'un crève-cœur. Et t'as plein de scènes comme ça, complètement imprévisibles et drôles. Enfin, vraiment, moi, j'ai envie de continuer en permanence, quoi.
C'est vrai ce que tu dis, parce que hier, donc, je faisais des runs et donc j'arrive dans les strates un peu plus profondes où ça commence à impliquer des explosifs et ce genre de choses. Et tu arrives, le niveau est à peine chargé, tu entends 5 explosions. Tu sais qu'il s'est passé, mais des horreurs en dessous. Et tu as peur d'y aller parce que tu te dis, si un marchand est dans le coin, il va croire que c'est moi, je vais
oui, prendre cher.
Mais oui, c'est vrai ce que tu dis, le monde vit très bien sans toi. Des fois, le chien peut spawner à côté d'une coccinelle lance-flamme et tu vas retrouver un chien grillé, un chien chaud. Il vaut mieux que ça soit une dinde d'ailleurs, parce que ça vous fait un poulet, vous pouvez le manger, ça fait un point de vie.
Génial, la dinde quand tu la brûles, tu peux gagner un point de vie. Je trouve ça, je suis tombée dessus en brûlant ma dinde alors que j'étais en train de la chevaucher. Et c'est aussi un jeu qui t'apprend à pas trop reposer sur tes acquis, parce que donc tu peux, comme disait Corentin, tu peux acheter des objets qui vont te faciliter la tâche. Moi, à un moment, j'ai chopé un axolotl, génial. Enfin, j'avais vraiment une fière allure sur mon axolotl qui pouvait cracher des bulles. Sauf que bon, bah, je suis mort 2 secondes après et j'avais le cœur brisé. Mais en fait, ça t'apprend à pas trop prendre pour argent comptant les objets que t'as débloqués, quoi.
Et il faut pas t'attacher, quoi.
Si je peux vous donner un pro-tip, c'est si vous achetez un téléporteur, l'utilisez pas n'importe où, parce que je me suis téléporté dans un mur direct, c'était une catastrophe.
Téléporteur, c'est pour les speedrunners uniquement. Moi, je l'utilise pas. Je laisse ça aux speedrunners.
Je pense que ça va donner le speedrun de Spelunky 2. Ouais. Ça va être,
je crois qu'ils existent déjà et je crois qu'ils ressemblent beaucoup à ceux du 1. Donc, des mecs qui se téléportent à l'infini, ils finissent le jeu en 3 minutes. C'est insupportable. Insupportable.
Mais franchement, 2 heures de plus, Erwan, je suis sûr que tu deviendras masochiste toi aussi.
Vachement à nous.
Alors. Ouais, moi, tu fais la comparaison avec Céleste. Moi, j'ai eu aussi un peu cette envie parce qu'on est sur du platformer et puis il y a cette même rapidité et puis cette même. Enfin, il y a quand même une certaine précision et tout ça. Mais Céleste, le truc, c'est que tu peux mourir 50 fois sur un même niveau. Si tu le réussis la 51e fois, tu passes au niveau suivant. Tu as une progression. Un sentiment d'accomplissement en fait, et c'est moi qui m'a empêché de me sentir vraiment frustré avec Céleste en fait, jamais. Et là le problème, c'est que tu sais que moi mon run, j'ai passé, je suis arrivé au bout d'un niveau une fois, je suis passé au niveau suivant, je suis mort, etc. Mais et à chaque fois tu recommences à zéro et tu sais que ce sera tout le temps comme ça. C'est que c'est là où je pense qu'il faut arriver à passer à un niveau où la mort ne devient pas frustrante. Or c'est compliqué, c'est quand même compliqué quand t'as investi, je sais pas Corentin, toi tu t'es capable de faire des niveaux où t'investis 25 minutes ou une demi-heure ou une heure ou 2 heures pour avancer dans ton run et tout ça, et puis d'un coup tu meurs. Comment est-ce que tu fais pour ne pas être frustré à ce moment-là ?
J'ai une grosse résistance à la frustration de base. Il faut en avoir dans Spelunky, mais je pense que il faut se mettre dans un état d'esprit où chaque mort est aussi quelque chose que tu apprends. C'est vraiment clé hein, ce qu'elle a dit, Julie. C'est que quand tu dis dans Céleste, on passe un niveau, il est passé. C'est vrai. Dans Spelunky, quand tu arrives pour la première fois à tuer un boss ou pour la première fois à passer un type d'ennemi dont tu avais peur, une fois que tu as arrêté d'avoir peur en fait, d'un truc, c'est là en fait, où il y a la bascule, ouais. Où tu passes dans une étape supérieure de ta progression avec le jeu. Et c'est vrai que, par exemple, à partir du moment où tu dis « Bon, je vais arrêter d'avoir peur de cette idole en or et de son piège et je vais essayer de le choper maintenant. » Et en fait, une fois que tu commences à prendre la confiance, c'est là où tu peux commencer à avoir beaucoup plus d'options et que ça commence vraiment à être fun parce que tu vas te dire, bon, j'ai quand même beaucoup plus d'options et je suis plus juste guidé par mes peurs et d'aller directement à la sortie. Et c'est vrai que je pense que c'est là qu'on trouve vraiment son plaisir dans ce qui reste. Tu as raison, Erwan, tu as raison de le préciser, un plaisir purement masochiste qui est difficile et qui peut être très frustrant.
Et je pense que c'est important quand tu commences ce jeu comme disait Corentin, de vraiment y aller en n'ayant pas peur, en te disant de toute façon, je vais mourir. Et en profiter pour expérimenter le plus possible lors du premier niveau. Parce que c'est sûr que ces expérimentations, elles se paieront beaucoup plus cher quand on aura passé le quatrième monde. Quoi. Mais moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir au début à tester tous les trucs possibles et imaginables. Qu'est-ce qui se passe si je balance un lézard à cornes sur un piège ? Qu'est-ce qui se passe si je saute par-dessus un homme des cavernes ? Enfin, je pense qu'au début, c'est important de se dire que tu vas mourir. C'est un fait et tout le monde meurt. Mais de t'amuser, en fait, justement. De prendre le contre-pied de ça et de t'amuser le plus possible et d'expérimenter. Moi, c'est là que je me suis beaucoup amusée, en fait. En me disant, je passerai jamais le deuxième niveau, c'est pas grave. Je vais juste regarder un peu la physique, comment tout se déroule. Quoi.
Après, ce que tu dis là, Erwan, la frustration, ils en sont conscients chez Mossmouth. Parce qu'ils ont dit qu'ils allaient réfléchir peut-être à rendre les premières strates moins difficiles, moins frustrantes. Il y a certains ennemis, notamment les taupes, qui sont des nouveaux ennemis et qui sont quand même bien casse-pieds. Hein, je suis d'accord, Julie. et donc, du coup, ils vont réfléchir à les rendre un peu moins casse-pieds, justement. Donc, peut-être que Spelunky avec le temps, deviendra peut-être un peu plus, on va dire, abordable, en tout cas sur les premières strates. Je ne pense pas qu'ils vont changer la difficulté sur la fin.
Non,
parce que le but d'un Spelunky, c'est quand même de se créer soi-même un environnement sécurisé pour progresser. Et donc, ça serait remettre en question la philosophie de jeu de Spelunky que de le rendre vraiment facile sur la fin. Mais bon, peut-être au moins le rendre plus accueillant, notamment pour les nouveaux joueurs, parce qu'on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que Spelunky, c'est quand même une physique, pour un jeu de plateforme en tout cas, c'est une physique très très particulière. Le personnage saute pas très haut, il court très vite, il a une grosse hitbox qui peut être un petit peu agaçante par moment. Mais si vous avez joué à Spelunky 1, c'est vraiment la même chose. Mais vraiment, quand je dis la même chose, c'est-à-dire que j'ai rejoint un peu Spelunky 1 avant que Spelunky 2 soit que je prenne Spelunky 2 sur Steam. Et c'est vraiment la même chose. J'ai vraiment du mal à distinguer les deux jeux d'un pur point de vue du gameplay. Ce qui est à la fois une bonne chose, parce que Spelunky 1 avait quand même un gameplay certes rigide, mais on va dire assez aussi précis, rigoureux, qui, moi, est à mon goût. Mais par exemple, sur la gestion des hitbox, quand tu sautes sur des ennemis, parfois, tu as envie de lui dire « Je, t'aurais pu me la donner, celle-là ». Les arbitrages, des fois, sont un petit peu, un peu trop sévères. Et je me disais quand même, bon, entre le 1 et le 2, Vous avez décidé de rendre le 2, alors je sais pas s'il est plus dur, je pense que l'avenir nous le dira s'il est vraiment plus dur, mais vous avez déjà fait votre jeu difficile. Ce genre d'arbitrage, quand vous sautez sur un Yeti typiquement et que le Yeti, non, c'est lui qui vous attrape et qui vous lance parce que vous étiez 3 pixels trop à droite ou 3 pixels trop à gauche.
C'est vraiment minutieux. Ouais.
Voilà, dans Céleste, je sais qu'on nous l'aurait donné, par exemple. Et c'est ce qui rend aussi Céleste aussi agréable, c'est qu'il y a, ces petites attentions. Il y a les développeurs de Céleste qui ont fait tout un thread. Matt Thorson a fait tout un thread sur Twitter concernant tous les petits ajustements qui, en fait, permettent d'arbitrer systématiquement, en cas de situation un petit peu ambiguë, à l'avantage du joueur pour que le joueur ne se sente jamais lésé. Spelunky manque peut-être un peu de ça. Et du coup, c'est peut-être ce que je leur reproche les gens.
Ils en ont beaucoup parlé aussi côté Dead Cells, Motion Twin. Ils en avaient beaucoup parlé de comment, comme ça, ils ajoutaient pour les doubles sauts, passer d'un niveau supérieur, etc. Pour que le jeu devienne fluide, malgré les petites imprécisions de quart de seconde du joueur ou de quart de pixel, essayer de faire un truc à l'avantage du joueur et que rien que ça, rien que ces petits ajustements qui se jouent sur 2 pixels, 1/10 de seconde, ça rend le jeu forcément plus fluide et plus agréable parce que finalement le jeu est cohérent avec l'intention du joueur. Il faut que son intention soit bonne, c'est-à-dire qu'il ait envie de taper ou de sauter au bon moment, mais si son intention est bonne, c'est pas un 1/10 de seconde ou 2 pixels qui vont le pénaliser. Et je trouvais ça assez intéressant du point de vue des développeurs.
Et ça arrive vraiment souvent, enfin, même moi qui suis quand même un joueur de Spelunky chevronné, qui est fini le 1 de long en large en travers, je continue à me prendre des serpents dans la figure parce que je fouette trop tard. Et ça ne devrait pas arriver, ça. Ça ne devrait plus arriver, ça. Parce que l'intention est là. On voit le serpent, on le frappe, point. OK, je l'ai lancé un peu trop tard. En plus, le fouet a des frames de start-up infinis, là, donc ça dure 40 ans de sortir le fouet et que ça soit vraiment actif. Et c'est frustrant. Ça, c'est vraiment frustrant, par contre. Quand l'intention est là, j'ai vu le serpent, je veux tuer le serpent. Et tu rates le serpent parce que le jeu a décidé que tu étais imprécis. Alors évidemment, on devient plus précis, on devient meilleur avec le temps. Mais ça, je pense que ça aurait pu être retouché entre le 1 et le 2. Ce qui enlève en rien toutes les qualités du jeu. Enfin, pour moi, Spelunky 1, soyons clairs, c'est un des plus grands jeux des 10 dernières années, avec Minecraft et compagnie. Il fait partie des grands jeux indépendants, mais vraiment, qui ont vraiment donné le ton. Spelunky fait partie de ces jeux-là qui ont, on va dire, lancé la mode, entre guillemets, ou le mouvement des roguelikes dans la scène indépendante, et des roguelites, évidemment. Mais bon, ça ne justifie pas de rester traditionnel sur des choses qui pourraient être un peu plus modernes et qui pourraient rendre ton jeu, qui pourraient encore plus ancrer ton jeu dans la durée, dans une intemporalité complète, quoi. Parce que c'est un jeu, moi j'aime bien, c'est comme tu parlais d'un monde qui vit par lui-même. Moi, Spelunky, le 1 et le 2 d'ailleurs, me fascinent toujours par l'aspect un petit peu, mais même dans 50 ans, je pourrais y jouer à Spelunky, quoi. Tu vois, c'est tellement, c'est des jeux incroyables qui sont. Pour moi, ça représente tout ce qu'il y a de plus beau dans l'aspect, dans l'art du gameplay, quoi. C'est vraiment, y a quelque chose de très pur et que j'aime beaucoup. Du coup, ça me désole d'autant plus qu'il n'y ait pas eu plus de réflexion au-delà du mieux disant en termes de contenu, qu'il n'y ait pas eu de mieux penser sur l'aspect, on va dire, physique, purement physique du jeu. C'est le seul point négatif que je vois à ce Spelunky 2.
Est-ce que vraiment tu auras les réflexes à 70 ans?
Je ne pense pas. Je continuerai à y jouer.
Si, je te jure, chérie. Quand j'étais jeune, j'arrivais jusqu'à la strat 7.
Marius, j'ai pas l'impression que c'est ton type d'expérience par défaut.
Non, moi j'en ai marre des rogues. J'en ai ultra marre. Et ça me faisait assez rigoler de vous entendre parce que je comparais avec Baldur derrière. Et moi, les marchands, je les tue. Et en fait, je suis plus sadique que masochiste. Donc c'est peut-être ça le truc.
Alors tu peux tuer les marchands aussi hein, dans Spelunky.
Ouais, tu peux et récupérer tous les objets derrière et tout, mais ouais, faut y arriver quoi.
Par contre, t'auras un marchand à la fin de chaque niveau avec un fusil qui t'attendra à chaque fois.
Ça, ouais.
Ah parce qu'il se passe le mot en plus.
Ah oui oui ouais, ah oui, oui oui oui.
C'est ça qui est extraordinaire en fait. Quand tu te rends compte que s'il y a un mec qui t'attend au bout d'une porte avec un fusil, c'est parce que t'en as énervé un deux niveaux plus tôt, ouais ça tu vois.
Ah oui. Après,
mais en speedrun, c'est comme ça que tu fais.
Spelunky 2, c'est quelque chose comme 17€ sur Steam, je ne sais pas combien sur
17 et 20€ sur PlayStation et sur PC et PS4 respectivement.
Voilà, donc dispo sur PC et PS4 pour grosso modo une vingtaine d'euros. Et jeu évidemment roguelike de référence s'il en est. On va enchaîner. Bah oui, c'est l'heure, c'est le moment de la chronique jeu de société de Jérémy Kletskin. Comme chaque semaine, il nous fait le plaisir de suivre l'actu des board games. Salut Jérémy.
Salut Erwan, cette semaine on va parler profusion de cartes de tuiles et de pions, ou plutôt de meeples, ces petits personnages en bois en forme d'étoiles de toutes les couleurs. Le jeu s'appelle Questal, la cité des oiseaux sacrés, avec son grand plateau qui s'étale sur toute la table, avec ses illustrations grandioses de villages, de forêts, de bateaux et de temples. Oui, parce qu'on va jouer le rôle d'explorateur qui débarque en Amérique centrale pour découvrir une civilisation perdue. Alors déjà un bémol, hein, Amérique centrale ils le disent pas, ils rentrent pas dans les détails, le jeu s'appelle Questal, donc c'est un oiseau sacré chez les Mayas, chez les Aztèques, mais pas chez les Incas. Donc je suis arrivé à la conclusion qu'il ne pouvait pas s'agir du Pérou, mais plutôt du Mexique, enfin voilà, plus au nord. Pour moi, c'était assez confus, mais ça n'a l'air de déranger personne d'autre. Hein. Personne ne s'est posé la question, mes amis étaient très contents. Ils sont contents, je suis content aussi. Hein. On parle d'un jeu assez traditionnel de placement d'ouvriers. On va chacun recevoir une poignée de meeples de sa couleur et on va les placer tour à tour dans certaines zones de la carte afin d'obtenir des artefacts, des trésors, des capacités supplémentaires, de l'argent ou des points. Chaque zone ayant sa particularité, il y a des lieux dans lesquels on pourra poser qu'un meeples et le sécuriser, dans d'autres il y aura des enchères qui seront possibles, voilà. Vraiment le jeu très beau, très équilibré, j'ai lu les règles en 20 minutes et ensuite très simple à expliquer, j'ai même pas eu besoin de revenir sur le livret de règles, j'avais tout assimilé. Et là vous allez me dire, et je vous entends d'ici, bah ouais mais c'est un peu classique tout ça là, c'est quoi le supplément d'âme de ce jeu là qui justifierait de le sélectionner pour une chronique par exemple? Vous vous rappelez qu'on utilise des meeples dans ce jeu, donc des personnages en bois en forme d'étoiles qui sont un petit peu épais comme ça, et ben ils servent aussi de dés. Et oui, on va lancer ces meeples, ça peut avoir l'air un petit peu chelou à première vue, je suis d'accord, mais chose tout à fait surprenante, ça fonctionne carrément. Ça fait des dizaines d'années que j'utilise des meeples, j'avais jamais pensé à ça en fait. Chaque meeples a un côté noir et un côté blanc, donc le côté aventurier et le côté archéologue, et vous l'avez compris, on pourra pas utiliser les archéologues dans les mêmes zones que les aventuriers. Certains lieux vont permettre de les mélanger, d'autres pas. Chose amusante, quand ils atterrissent sur la tranche, on pourra choisir sa couleur, et s'ils tombent sur leurs pattes, on aura même une pièce d'or en bonus. Le but étant de collectionner un maximum d'objets pour ensuite aller vers les bateaux pour les envoyer à la maison. Je rappelle le nom du jeu, Quetzal, Q-U-E-T-Z-A-L. De 2 à 5 joueurs, ils indiquent 15 minutes par joueur, mais je dirais un peu plus long que ça. Notre première partie à 4 a quand même duré 1h30. Hein. L'auteur Alexandre Garcia, c'est édité chez Gigamic et à partir de 10 ans, vous pouvez y aller sans problème. Et moi, je vous dis à bientôt sur les forums de Silence on Joue, par exemple. La saison a aussi démarré en trombe là-bas. Venez nous rendre visite. Bye bye!
Bye bye Jérémy, à la semaine prochaine, Jérémy Kletskin et sa chronique Jeux de société. C'est le moment, bah, ça fait quand même un bail qu'on l'attend et on va peut-être encore l'attendre longtemps finalement dans sa version pour sa version définitive, mais il est enfin arrivé, en tout cas on peut y jouer, en tout cas on peut au moins créer un personnage et jouer quelque temps. C'est le nouveau jeu de créateur de Divinity Original Sin 1 et 2, donc Larian Studio, studio belge, qui prennent la suite de BioWare avec ses jeux sortis en 98 et 2000, Baldur's Gate 2 et Baldur's Gate 2, je vais y arriver. Et donc c'est évidemment le très attendu Baldur's Gate 3 en version Early Access.
Heard the news, I hope. They are here, mind flayers. Each parasite they plant grows their numbers.
reveal truth to the Absolute.
And with this new cult on their side, we're going to need a hero.
Comme dans tout jeu de rôle d'heroic fantasy basé sur les règles mythiques, mais néanmoins modernes, de Donjons et Dragons, il faut commencer par la création d'un personnage, et je pense que ce Baldur's Gate 3 marque, ne serait-ce que par cette étape incontournable, mais néanmoins iconique, du jeu de rôle. Un Baldur's Gate, ça se commence en créant un personnage. C'était quoi ton premier personnage créé, Marius ?
C'était un peu nul. J'étais très déçu de moi dès que j'ai validé mon truc. J'ai passé. Alors déjà, je trouve que c'est une étape super. C'est la meilleure création de personnage que j'ai vue. Parce que, on en parlait un petit peu avant l'émission, mais parce que le résultat de tes personnages est bien, en fait. Souvent, quand tu crées des persos, ça donne des espèces de monstres... très très laid, et là je trouve que tout est plutôt harmonieux. J'avais créé très très bêtement une guerrière humaine, et c'était stupide de ma part, je l'ai regretté très vite. Et après 30 heures de jeu, j'ai recréé un autre personnage, un drow démoniste bien plus efficace et bien plus rigolote.
Donc tu faisais partie de ces normies qui ont fait qu'un humain sans créativité, voilà, parce que les développeurs ont dit ça quand même.
Ouais, j'ai trouvé ça super comme... Ça venait avec le troisième patch, ils ont fait un point sur les personnages créés par les joueurs et étaient hyper déçus que ça soit un homme blanc d'une trentaine d'années qui apparaisse le plus souvent. Et c'est vrai que c'est un peu triste. Moi, j'avais fait une femme, au moins, on va dire. Une elfe des bois. Non, d'ailleurs, je dis une humaine, mais pas du tout, c'était une elfe des bois.
Ah, n'importe quoi. Tu valais mieux que ça, mais je le savais.
Ouais. Non, mais voilà, je la conchis maintenant, je suis une drôle.
Dur. Bordel. Ah ouais, t'avais commencé une guerrière elfe des bois, waouh.
Ouais, mais qui était pas mal, mais c'est juste le côté guerrier, en fait, c'est chiant à jouer, c'est pas marrant. Je me disais, oh, je vais me faire mon tank, comme ça je serai tranquille, et puis je l'ai regretté, parce que, en fait, ce qui est bien dans les jeux Larian et dans celui-là, même si c'est pas encore... Il y a des scénarios, en fait. Ouais. T'as un tas de petits personnages très écrits qui te servent de compagnons, mais qui, dans le jeu final, seront incarnables. On pourra prendre ces personnages comme point de départ avec une story qui leur est attachée. Et ça, c'est plutôt pas mal, je trouve, c'est des trucs intéressants. Et il se trouve que la guerrière Gisranki, bah, je l'aime bien. Et du coup, j'avais ce cas un peu désagréable de est-ce que je veux jouer avec un personnage que j'aime bien dans mon équipe, quitte à avoir deux guerriers, ce qui est stupide, ou pas. Donc j'ai recréé la partie. Et ouais, tu disais effectivement qu'on est prêt à attendre un petit moment. Effectivement, le jeu, il est pas prêt de sortir parce qu'il est quand même pété de bugs. Je sens bien que je suis pas dans le lot des plus mal lotis, parce que j'ai pas eu de crash, j'ai pas eu de sauvegarde corrompue surtout, parce que c'est quand même ça qui doit rendre le plus dingue. Mais en gros, si on y va, il faut savoir que tout ce qui relève de la mise en scène, des cutscenes, c'est tout pété. Ça marche pas du tout. Les graphismes sont là, mais l'animation des personnages est toute moche, toute fofolle. On peut parler à un personnage qui a le bras qui part en sucette pendant qu'il nous parle. Et puis rien que l'intro, qui est censée être un peu dramatique, impressionnante, avec un dragon qui surgit et tout, ça ne marche pas du tout. Il y a un truc de cinématique pas faite, pas finie, quoi.
Ouais.
Donc si on y va vraiment pour le côté épique que peut proposer un jeu narratif, ça marche pas. Par contre, le système de jeu, lui, il est bien là, et je trouve ça super fun. Et je trouve que ouais, voilà, la trentaine d'heures qu'il faut pour plier le truc est un vrai plaisir. Et offre ce que t'attends d'un jeu de rôle, c'est-à-dire... la possibilité de le refaire de façon complètement différente, avec un alignement différent, et de revoir complètement tes approches. Le gros défi, moi, que je me mettais sur ce jeu, c'était est-ce qu'il allait tenir le coup face à Disco Elysium, en fait. Qui n'a rien à voir, ouais. Mais qui a été une telle claque dans la façon d'écrire un jeu de rôle, d'écrire l'échec dans le jeu de rôle, de rendre toutes les situations parfaites, c'était pas si facile à relever, et forcément c'est différent, c'est pas aussi bien écrit, aussi brillant, mais je trouve qu'il y a un plaisir aussi dans l'échec dans ce jeu là Et ça tient pas mal au changement qu'il y a par rapport au Baldur précédent. Moi, j'y jouais moins. En fait, j'y ai moins joué que je les ai regardés jouer par ma meuf, qui a passé un nombre d'heures complètement déraisonnable sur les deux précédents. Et du coup, je suis pas du tout perturbé par le fait qu'on incarne plus qu'une équipe de 4 au lieu de 6, alors que ça semble impie aux yeux de certains. Je suis pas perturbé du tout non plus par l'insertion du tour par tour plutôt que la pause dynamique, parce qu'en fait, c'est le Larian de Divinity qui est introduit dans Baldur. Ça marche très bien. Et je trouve que les jets de dés ajoutent une espèce de chaos à tout ce que tu peux toi préparer, tout ce que tu peux anticiper, qui est assez marrant. Parce que même si tu as des super compétences en intimidation ou en dextérité, un jet de dés, ça se loupe et ça te rajoute du chaos dans une partie qui est super fun, quoi. Tu te retrouves avec des situations ubuesques. Et là où je suis content d'avoir un F5, contrairement à vos rogues tout pourris, j'aime bien garder ce chaos-là. J'aime bien me dire que des fois ça marche pas, et que plutôt que de recharger une partie, assumer le fait que t'as pas réussi à convaincre quelqu'un et que tout part en sucette, quoi.
C'est quelque chose que Disco Elysium avait effectivement très très bien réussi, c'est-à-dire que l'échec d'un... Il y avait énormément de jets de dés, de jets de compétences et de choses comme ça dans Disco Elysium, et l'échec était aussi valide, finalement, scénaristiquement, narrativement, que la réussite.
Presque plus amusant que la réussite, ouais.
Et là, ils ont réussi quand même à garder à peu près ce niveau-là, en dehors des combats, évidemment, où l'échec signifiant la mort, on est moins ouvert au niveau scénario, forcément.
Ouais, c'est moins ouvert, mais t'as quand même des situations qui sont assez rigolotes. Alors, j'ai triché une fois. Mais non, j'ai pas envie de spoiler parce que c'est vraiment... Non, mais j'ai pas triché, j'ai rechargé ma partie. Oui. Mais il y a des situations vraiment totales qui nous échappent totalement. En fait, j'ai pas envie de le spoiler, mais t'as vraiment des situations qui peuvent partir complètement en sucette, notamment autour du camp. En fait, le jeu se structure autour de... En gros, au début, tu composes ton groupe autour d'un ensemble de petits mecs qui sont tous contaminés par une larve qui menace de nous transformer de façon assez rapide. Et y a cette... Narrativement, je trouve que ça fonctionne très bien parce que ça crée une urgence qui est plutôt incompatible avec le jeu de rôle, mais moi, naïvement, j'y ai cru pour ma première partie, où vraiment, je me disais qu'on avait genre 7 nuits avant vraiment que le truc tourne caca. Et il y a plein d'événements qui se passent le soir quand tu rentres au camp qui sont très très chouettes et très inattendus. Enfin, moi, ça m'a vraiment beaucoup plu et ça rajoute, je trouve, à un jeu de rôle, on y joue pour les mécaniques. On y joue pour là, en plus, un truc Larian, c'est vraiment tu t'amuses à acheter de l'huile partout pour préparer tes petits pièges et tu lances un combat en foutant le bordel, en ayant anticipé un petit peu ton truc, et ça marche bien, quoi. T'as vraiment un plaisir dans les combinaisons de sorts et d'élémentaires et de trucs comme ça. Et là, le côté narratif, je trouve, fonctionne très bien. C'est pas au niveau d'un Disco Elysium, mais en même temps, j'ai pas le souvenir d'en avoir vu beaucoup, des jeux qui sont de ce niveau-là au niveau de l'écriture. Mais c'est vraiment une très bonne surprise. Et ce qu'il faut dire aussi, quelque chose auquel j'avais pas pensé, mais dans les jeux Larian, t'as un travail sur la verticalité qui transforme vraiment aussi le rapport au jeu de rôle. Où là, sur les questions de placement et sur le level design tout court, t'as vraiment, ça t'encourage à fouiller, à regarder tout ce que t'as autour, tous les petits chemins, les petits... Essayer de fouiller les bosquets, les machins, pour vraiment te donner des avantages stratégiques qui sont incommensurables, quoi. Et ça, c'est assez plaisant de t'encourager à fouiller avant de lancer un combat et pas être juste dans le truc un peu...
Ouais, c'est-à-dire que tu repères la présence d'ennemis, quoi. C'est le fait de repérer la présence d'ennemis, c'est la première phase.
Tu repères la présence d'ennemis, mais tu repères aussi les étages. En fait, tu as un gros travail sur la verticalité, ce qui fait que si tu te bats avec un niveau de... Enfin, en étant au-dessus des ennemis, ouais, tes stats changent complètement. Et tu as plein d'endroits qui sont accessibles, mais de façon cachée. Il faut vraiment que tu fouilles pour trouver ton petit escalier, ton petit parapet sur lequel il va falloir sauter pour accéder à un autre truc. Et quand tu sépares ton groupe en quatre, pour foutre le dawa dans une pièce, ça marche, mais super bien. Mais ça demande voilà, un peu de temps de préparation. Et un
ça
petit peu
de Breath of the Wild à ce niveau-là, presque. Quand on prépare un petit peu le terrain avant un combat, se dire, tiens, je vais peut-être placer... Ouais.
Non, il est vraiment... moi, je trouve que c'est une très bonne surprise. Après, voilà, il faut savoir où on met les pieds. C'est vraiment de l'early access early, quoi.
De sortie, d'ailleurs ?
Non. Il n'y a pas de date de sortie officielle. Et franchement, quand tu vois le niveau d'instabilité du truc, c'est un peu normal. Mais ouais, j'ai vraiment très hâte qu'on dépasse l'acte 1, quoi.
C'est ça, parce qu'il y a deux choses dans cet early access. C'est qu'il y a l'early access côté finition et polish, on va dire, avec les bugs, avec les textures, avec les tous les trucs au niveau graphique et informatique, enfin à gérer, virer les bugs et tout ça. Et il y a l'aspect où on n'a que l'acte 1, c'est-à-dire on sait combien il y a d'actes au final ou c'est...
Non, mais j'imagine que ça doit être 3 ou 4. Mais non, y a, effectivement, il n'y a que cette zone-là. Et par contre, le prix, lui, n'est pas moins cher qu'un jeu normal. Je crois que c'est 60 balles ou un truc comme ça. C'est un peu...
Mais, c'est un contrairement, peu sévère, contrairement à Final Fantasy VII, on ne va pas te faire repayer la suite. Une fois que tu as acheté celui-là, tu vas l'avoir en version complète. Contrairement
oui, oui. En même temps, 70 balles pour un acte 1, si on te faisait payer derrière, oui.
Bah, c'est ce
qu'ils ont fait. C'est normal, quoi.
Ouais, enfin, ouais, il dure combien de temps? Et là, l'acte 1, il dure combien de temps aussi?
Ouais, il dure une trentaine d'heures quand même, hein, l'acte 1.
Ah, quand même.
Oui, ouais, okay. Non, c'est du jeu drôle. On est sur la durée presque d'un Disco Elysium. Hein.
Ah ouais, quand même.
Mais t'as quand même ce feeling d'être dans un prologue, quoi. De ne faire que toucher le début des trucs, quoi.
Et après, en termes de durée de vie, c'est vrai que c'est équivalent à Disco Elysium, mais dans Disco Elysium, il n'y a pas de combat, et c'est vrai que la durée de vie d'un Baldur's Gate...
Non, c'est qui n'ont rien à voir du tout, hein, dans le fond.
Oui, parce que en fait, la durée de vie d'un Baldur's Gate, c'est aussi beaucoup de temps passé en combat, à bouger ses unités, à bouger ses personnages. Les combats sont longs, quoi. Enfin, c'est vraiment des...
Les combats sont un peu longs dans le sens où ils sont massifs. Moi, j'avais pas le souvenir d'avoir des combats aussi larges. Là, on se retrouve vite avec une petite dizaine d'ennemis sur la tronche. Et en tour par tour, c'est un peu long. Mais c'est pas du Hades, quoi. On en parlait tout à l'heure. C'est sûr que c'est pas le même tempo. Mais après, le personnage ne dispose que de deux actions. Donc ton tour par tour il va assez vite, hein. Une fois que tu sais ce que tu vas faire, que tu as compris les mécaniques, que tu sais quel sort utiliser dans quelle situation, c'est pas non plus tu mets pas une minute par personnage, quoi.
Oui, bien sûr. Non, et puis c'est vrai que pour moi, pour avoir joué quelques heures après, mais c'est vrai qu'il y a un côté assez fluide à l'ensemble. Et je trouve que en termes d'interface, après il y a ce côté un peu tactico-RPG, vu qu'on est sur du tour par tour en mode combat et tout ça. Mais je trouve que visuellement et tout ça, ils ont réussi à rendre le truc au niveau des jets d'initiative, enfin de l'ordre des personnages. Tout est assez lisible à l'écran. On n'est pas submergé par des tonnes d'informations et on finit par comprendre assez vite comment ça se passe, en fait. Donc c'est pour le coup c'était assez prometteur. C'est vrai que pas mal de bugs et puis voilà, c'est pour le coup, j'imagine mal l'Ariane finir dans les 12 mois qui viennent.
M'étonnerait pas. En même temps, le jeu est arrivé très vite. Hein, entre l'annonce il y a un an, je crois, et le release. Moi, je ne m'attendais pas à un truc aussi rapide, quoi.
Oui. Baldur's Gate 3, Early Access, donc au prix de Baldur's Gate 3. C'est une soixantaine d'euros sur PC, je crois.
Disponible sur Stadia aussi.
Oui, et sur ça, Stadia, curieux. Pour les nombreux abonnés à Stadia.
C'était une des grosses têtes de gondole.
Bah, c'était là-bas que ça avait été annoncé. Ouais.
Oui, c'est vrai. Développé pour Stadia, quand même, c'est peut-être pour ça. Non,
je ne sais pas, peut-être que c'est plus stable sur Stadia. Hein.
Mais oui. Peut-être. T'as pas essayé?
Non, je n'ai pas essayé, j'avoue.
On verra. Pour
le coup, en plus, il y a du cross-save. Enfin, le jeu, quand il enregistre, me dit qu'il y a du cross-save. Donc, a priori, je pourrais peut-être relancer mes parties sur Stadia.
Écoute, tu nous feras un compte rendu si ça arrive. D'accord.
Je n'ai pas envie d'aller sur Stadia, moi.
Bon, t'es pas obligé non plus.
Sur Stadia, puis c'est tout.
Mange ton Stadia.
C'était Baldur's Gate 3. On va continuer avec un jeu qui est peut-être dans une sorte de grande tendance en ce moment, qui est du jeu narratif bienveillant, cool, agréable, enfin voilà, qui où on est content d'y aller, où on se sent bienvenu. C'est un peu dans la lignée, on en avait parlé, de Assemble with Care. C'est un peu dans la lignée, on n'en avait pas parlé, c'est un des jeux indés de l'été de Spiritfarer. En tout cas, celui-là, ça s'appelle I Am Dead.
Oh, hello there. I'm Boris Lupton. I was the curator of this museum on the beautiful island of Shelmiston. And let's get this out of the way right now. I am dead. But it's not a big deal. Oh, hello, Sparky.
Hello, Morris. Are you showing them your ghostly powers?
Oh, yes. One thing about being dead, I can do some new things.
I Am Dead, c'est on va suivre Maurice Lupton sur l'île de Shelmiston avec sa chienne Sparky, mais la situation est peut-être moins évidente qu'il n'y paraît à première vue. Julie, donc toi, c'est toi qui nous a conseillé de jeter un œil à ce jeu édité par Annapurna et donc, qu'est-ce que t'en as pensé ?
Je suis vraiment une cliente Annapurna. En fait, je suis leur catalogue de sortie et je me dis, bon, bah, il y a des grandes chances que ce soit bien, quoi. Enfin, jusqu'ici, ils m'ont pas déçu. Et c'est exclusivement comme ça, hein, sur le site de Annapurna, que j'ai découvert que I Am Dead allait sortir. J'en avais pas du tout entendu parler avant. Et j'ai tout de suite été hyper intriguée, bah, déjà par le titre et le côté l'univers hyper coloré, mignon, etc. Donc, où on retrouve, donc, comme tu l'as dit, Maurice Lupton, qui donc a pour principale qualité d'être mort, hein, c'est ouais. Un gardien de, c'était le conservateur du musée de l'île de Shelmiston, quelque part dans l'Atlantique Nord, et donc qui est mort, ce qui lui permet quand même de discuter avec sa chienne décédée Sparky. Et donc ils apprennent que, lui en fait forcément au début il panique un peu, il se demande quel sens il va bien pouvoir donner à sa mort, sachant qu'il est persuadé d'avoir passé l'intégralité de son existence comme un fantôme en fait, en tant que conservateur de musée, à passer son temps à collecter les histoires des autres. Et donc sur cette île se trouve aussi un volcan endormi, qui n'est pas si endormi que ça, parce qu'apparemment il est sur le point d'entrer en éruption. Et la mission de Maurice Lupton et sa chienne Sparky, c'est de trouver donc le prochain gardien de l'île. Et pour ce faire, en fait, ils vont devoir retrouver la trace de 5 fantômes. Et pour trouver la trace de ces 5 fantômes, ils doivent analyser, en fait, c'est pas tant un jeu qui parle de la mort, j'ai l'impression que c'est surtout un jeu qui parle de ceux qui restent, en fait, les personnes qui restent derrière. Et donc c'est ce qu'on voit un peu, donc Maurice Lupton doit trouver des personnes qui se souviennent des fantômes, enfin des personnes décédées. Ils doivent ensuite ils doivent analyser leurs souvenirs, donc un peu à la manière d'une lanterne magique. En fait, il va devoir, en termes de gameplay, c'est ultra simpliste. Hein. C'est vraiment un clic gauche, un clic droit pour ajuster les souvenirs de manière à former une image bien nette. Donc là, par exemple, la première personne qu'on cherche, c'est un type qui s'appelle Pete Noach, qui était un prof de yoga sur le phare de l'île. Donc on va passer par les souvenirs d'une jeune femme qui se souvient avoir passé des vacances avec ce type et qui va raconter, par exemple, toutes les soirées qu'elle a passées à jouer au golf sur le phare, à envoyer des sauts de balles dans la mer. Et ensuite, on doit trouver un objet qui est associé à ce souvenir, en l'occurrence un tee de golf. Et donc, un des pouvoirs dont dispose Maurice Lupton, c'est qu'il peut en fait analyser les objets, vraiment voir les objets se décomposer. On peut se focaliser donc d'un seul clic sur un objet et voir l'intérieur. Et au début, donc, c'est un peu marrant en fait de pouvoir analyser chaque élément de l'île, parce que au début tu vas te dire, je vais regarder qu'est-ce qui peut bien se cacher dans ce sachet de thé, qu'est-ce qui peut se cacher dans le terrier de ce renard. Enfin, ça devient vraiment au début moi j'explorais juste pour trouver les souvenirs qu'on me demandait de trouver, parce que le jeu m'incombait de le faire, et au final je me suis prise de curiosité pour la vie de tous les gens qui restaient sur l'île en fait. Enfin, pour moi c'est vraiment le centre du jeu, quoi. C'est l'île, elle est remplie de gens qui ont des histoires, enfin des existences tout à fait ordinaires, mais des histoires qui méritent vraiment d'être racontées. C'est vraiment là-dessus qu'est mis l'accent, quoi. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Après, je mettrais quand même un petit bémol, parce que c'est vrai que le gameplay est tellement simpliste que je pense que c'est un jeu... C'est pas mal d'y retourner, peut-être pas tout faire d'une traite, parce que ça peut être un peu ennuyeux à la longue, même si les histoires sont quand même drôlement bien écrites. Ça dure quelque chose comme 5 heures, mais je pense que c'est pas mal de le faire en 2-3 fois, quoi. C'est, par exemple, après être 48 fois à Spelunky, c'est pas mal de se réfugier dans cette île. Je trouve que il a vraiment les qualités d'un jeu doudou, comme vous disiez tout à l'heure, quoi.
Mais il y a... Moi, il y a un truc qui m'a vraiment séduit là-dessus, c'est le jeu avec la 3D, que je trouve assez original. Tu en as parlé, c'est que Grosso modo, en tant que fantôme, on peut se focaliser sur n'importe quel objet et regarder à l'intérieur. C'est-à-dire que si on se focalise, l'exemple typique, on se focalise sur une armoire, on ne va pas avoir à ouvrir la porte, mais avec la gâchette gauche, on va rentrer dans l'objet qui va passer, lui, en mode coupe. On va voir la coupe de l'objet, et donc on va voir ce qu'il y a à l'intérieur de l'armoire. Et puis, s'il y a un objet intéressant, on va pouvoir se refocaliser sur cet objet-là, donc il va se retrouver isolé à l'écran, et on va pouvoir le manipuler en 3D et regarder encore une fois à l'intérieur. Et du coup, il y a cette espèce de poupée russe permanente, ouais, où on va être dans des objets, puis dans des objets, puis dans des objets qui sont dans des objets, avec en plus des sortes de jeux additionnels sur des esprits de l'île, où il va falloir mettre des objets dans une certaine forme. Et du coup, je trouve ça super agréable. La manipulation est plutôt pas mal, c'est plutôt bien pensé. Et en fait, il y a presque deux modes de jeu. Moi, j'étais... Je ne vais pas dire que c'est pas vraiment un mode de jeu speedrun, mais tu en as parlé, c'est-à-dire que soit on fait les missions, on cherche les gens qui ont des petites bulles au-dessus de leur tête, ça veut dire qu'ils ont des souvenirs liés à la personne, et on va aller voir le souvenir, on va trouver l'objet qu'il faut trouver, et puis on va chercher cet objet qui est généralement d'une manière assez logique, ou enfin bon, on peut s'en douter, à l'intérieur d'un autre objet de la même pièce. Et donc, on va avancer comme ça dans l'histoire et puis choper deux ou trois esprits au passage. Soit on va plus flâner. Et moi, j'ai fait un peu l'inverse. C'est-à-dire, j'ai commencé en flânant. Puis le côté flânerie, et finalement, on s'ennuie un petit peu assez vite parce qu'il n'y a pas un contenu absolument monstrueux. Et pour le coup, le côté un peu, je me concentre sur l'objectif. Là, j'ai trouvé que ça marchait super bien. À la manière de Assemble Whisker, où il y avait ces objets à réparer et tout ça, où finalement, l'histoire, on passe assez vite sur le scénario et puis on se retrouve avec ces petits objets qu'il faut manipuler et tout ça. Et je trouve que c'est assez agréable d'aller assez rapidement dans le jeu, quitte à effectivement le boucler en deux sessions et tout ça. Mais c'est des jeux accueillants, en fait. C'est des jeux chaleureux.
Je sais que j'aurais envie d'y retourner, tu vois, parce que c'est vrai que, comme tu disais, ça manque pas d'excuses pour y retourner. Une fois que tu as accompli tous tes objectifs principaux, tu peux revenir pour essayer de trouver les esprits de l'île. Il y a aussi des petites énigmes en plus qui ont été rajoutées à chaque parcelle du monde. Et c'est ça, c'est tellement accueillant que j'ai envie d'y revenir alors que je l'ai terminé et que je me suis même ennuyée par moments. Enfin, y a quand même un truc qui m'attire irrésistiblement vers cette île. Je sais pas si c'est les personnages, parce que c'est aussi un univers un peu fantastique, donc où cohabitent, tu parles pas qu'à des gens finalement, il n'y a pas que des gens qui ont des souvenirs. Il va aussi y avoir des renards, des robots, des humanoïdes de mer, enfin il y a vraiment toute une histoire en fait que tu découvres à mesure que tu avances qui est assez chouette, je trouve.
Sachant qu'on ne l'a pas précisé, mais enfin on l'a dit, hein, mais c'est une sorte de 3D avec aplat de couleurs qui est super élégante. Enfin, je trouve que le jeu, au niveau design, au niveau dessin aussi, parce que les personnages sont dessinés un peu à la façon visual novel, je trouve qu'il y a une sorte de cohérence générale graphique. Je ne connaissais pas le travail de Richard Hogg. Le nom me disait quelque chose bizarrement, mais... Je sais pas trop, mais franchement, belle réussite à ce niveau-là, et c'est rien que ça, c'est très accueillant.
Disons que donc I Am Dead, je l'ai simplement vu moi en trailer ou quoi, j'ai pas pu y toucher encore, mais c'est vrai que pour moi c'est un pur jeu Annapurna, quoi. C'est ouais. Clairement c'est dans la lignée des comment il s'appelait, Clémence, de tous les jeux qu'on avait sur mobile et compagnie. C'était pas Clémence,
non,
c'est Florence. Florence. Excusez-moi, je me trompais de prénom. Mais oui, non, c'est un jeu qui fleure l'Annapurna à 10 km et ça m'étonne zéro, quoi. Et une espèce de patte comme ça, artistique, à la fois simple et travaillée, je crois que c'est signé, quoi.
Ouais. C'est marrant, les lignes éditoriales, Annapurna d'un côté, Devolver de l'autre, on n'est pas...
très crade d'un côté, très sympa de l'autre, mais des bons jeux partout.
Non, mais c'est ça.
Ouais,
c'est,
Devolver, chacun, ça a changé, chacun. Hein. Devolver, tu t'attendais pas forcément à les voir avec j'ai oublié le nom, mais le jeu de cet été là,
Fall
Guys. Ouais. On est quand même dans le roudoudou coloré. Les joueurs réussissent à être méchants, mais
non, mais il y a eu Pikuniku aussi. Enfin, Devolver, en fait, ils sont plus dans le barré. Après, ça peut être mignon, tu vois, il y a pas de souci, mais faut que ça soit un minimum barré ou un minimum, je sais pas comment dire, old school peut-être aussi sur certains aspects. Bon, la ligne éditoriale de Devolver est variée, mais je la trouve encore assez cohérente malgré les écarts mignons, on va dire.
Ouais.
Ouais. Donc c'est et je n'ai pas noté figurez-vous le prix de I Am Dead.
17€ sur Steam environ. Ouais.
D'accord. Bah, écoute,
tous les jeux d'aujourd'hui coûtent 17€ sur Steam, 20€ sur console de toute façon.
Sauf Baldur's Gate 3 qui lui est un peu plus cher. On va terminer avec ce jeu où tu as insisté pour en parler, Corentin, et du coup je l'ai lancé. On en va en reparler, en tout cas ça s'appelle Paradise Killer. Truth waits for you in the shadows. This island is full of sinners. Paradise has been killed and I'm looking for the murderer. Do your job. Welcome to Starlight. This island is a thousand little tragedies waiting to be discovered. I must be the bad guy, right? Donc, Paradise Killer, comment le définir? C'est un visual novel de Corentin, hein? Voilà, pour Corentin.
C'est ça, exactement. Très bien défini.
En soi, alors, j'ai jamais été confronté. Alors, je sais qu'il y a certains de nos auditeurs et auditrices qui nous reprochent cet anglicisme de lore, donc pour parler de l'univers narratif d'un jeu, mais je vais l'utiliser là. Je n'ai jamais été confronté aussi brutalement à un lore aussi incompréhensible et aussi what the fuck. À un niveau intersidéral où les mots mis les uns après les autres n'ont plus de sens. Je sais pas, les gens, ils te parlent à l'écran, il y a un texte qui s'affiche et tu ne sais pas de quoi ils parlent. Tu ne comprends pas. Déjà, je vous dis juste le nom du personnage principal, c'est Lady Love Dies. Rien que ça, pour comprendre que ça parle de quelqu'un, Lady Love Dies,
oui.
Déjà, tu mets du temps. Et quand
t'as pas lancé Kingdom Hearts 3, toi?
Oui, j'avoue. Donc, on va loin.
Et je mélange les lettres et j'ajoute un X, voir ce que ça donne pour Lady Love Dies, peut-être.
Ouais. Je sais pas, en termes de rapport à la réalité, à côté de Paradise Killer, Danganronpa, c'est ce que je disais, c'est du Zola, quoi. Enfin, c'est de la réalité pure, c'est du concret. Enfin,
donc, c'est documentaire.
J'attends beaucoup de toi, Corentin, j'attends beaucoup de toi parce que j'ai lancé le jeu, j'ai commencé à y jouer, et à un moment, je me suis dit non. Enfin, voilà.
Ah ouais, à ce point-là ?
Ouais, non, c'est... Enfin, non, mais c'est parce que... il faut accrocher quand même, il faut comprendre là où t'es. Et à un moment, on te dit que t'es sur une île qui a sa 25e résurrection.
24e. On commence pas, on ne transige pas avec le lore.
Voilà, et qui n'arrive pas à passer à sa 25e parce qu'il y a quelqu'un, il y a un tueur qui a buté le concile et que le juge te fait rapatrier de ton exil qui a duré 3 millions de jours. Voilà, bon.
On va peut-être expliquer de quoi il s'agit parce que là, je pense que les auditeurs sont aussi perdus que toi, mon pauvre Erwan. Donc, commençons par le commencement. En effet, Paradise Killer est un jeu d'enquête et tu as cité Danganronpa. Je suis heureux que tu aies mis Danganronpa sur la table parce qu'on sent que les influences Danganronpesques, si on peut dire que ça est comme ça, sont présentes, existent, ne serait-ce que dans l'interface utilisateur, lui, les dialogues. On est très clairement dans un délire à la Danganronpa. Puissance 1000, on est d'accord, mais on est clairement dans ce genre de délire-là. Donc, on va résumer l'histoire de la manière la plus simple qu'il est possible pour moi de le faire. On incarne Lady Love Dies, qui est une espèce de... C'est une inspectrice née, hein, c'est l'inspectrice du paradis. Voilà, on est au paradis. On part du principe qu'on est au paradis et il y a l'inspectrice du paradis. Et ben, on la rappelle de son exil parce qu'elle a été condamnée il y a longtemps, parce qu'elle a fait des conneries, on ne sait pas quoi. Mais on la rappelle parce que quelqu'un a tué le conseil. Et le conseil, en gros, c'est la plus haute autorité possible au paradis. C'est celle qui gère toutes les affaires courantes, toutes les affaires moins courantes de transition d'île, comme tu dis. Parce que le paradis est sur une île et que cette île, de temps à autre, ne fonctionne plus. Et donc, les gens, en fait, déménagent et changent d'île. Sachant que quand on parle d'île, on ne parle pas d'une île géographique, mais plutôt d'une réalité de poche, un peu quelque chose de plus un peu métaphysique, un peu plus, on va dire, perché qu'une simple île. Voilà. OK, jusque-là ? Très bien, bon, super.
Juste un truc, c'est qu'en gros, on peut tuer des gens qui sont déjà morts, parce que s'ils sont au paradis, c'est qu'ils sont déjà morts.
Alors, On appelle ça le paradis, c'est pas le paradis catholique, c'est pas le paradis où il y a les, c'est pas les, c'est pas Saint-Pierre qui va venir, tu vas en enfer. Non, c'est le paradis. C'est en fait c'est un paradis pour certaines personnes. On l'apprendra au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu, mais c'est plus le paradise plus que le heaven. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus le paradis, on va dire des sens et des gens qui sont en orgie totale tout le temps. Voilà, ce genre de choses. Parce que c'est un jeu qui transpire de libido, c'est un jeu qui transpire de comment dire, de vices, de voilà, c'est on est dans un monde ultra perché avec donc ce juge qui vous ramène de votre exil, qui ramène Lady Lovesay de l'exil pour vous expliquer qu'il y a eu ce meurtre, meurtre d'ailleurs dont on n'a pas les corps, on sait juste qu'il y a eu un meurtre. En fait, mais comment vous savez qu'il y a eu un meurtre? Parce qu'ils sont pas sortis de la chambre, donc ils sont morts. Ah d'accord, très bien. Eh ben on va inspecter les choses. Et donc on vous balance dans un espèce d'open world. Donc c'est toute l'île en fait est un open world et on va se déplacer à la première personne, comme dans Danganronpa. Erwan, tu as encore une fois, tu vois à quel point tu as eu raison d'amener Danganronpa sur la table. Et on va aller discuter avec la petite dizaine de personnages qui est présente sur l'île et aussi essayer d'arpenter différents endroits pour trouver des indices, essayer de raccorder les différents éléments de l'intrigue entre eux pour comprendre ce qui a bien pu se passer en fait, au moment où le conseil en fait, était en méditation très très forte pour créer avec leur cerveau l'île suivante, parce que c'est comme ça que ça se fait dans ce monde-là. Et vous aurez compris, évidemment, Erwan le dit en se moquant, que l'univers est complètement pété, l'univers est incroyablement incompréhensible. Et c'est vrai qu'on ressent ça hein, dès le début, on ne peut pas y couper, c'est un univers qui est dur à avaler, mais on l'avale. Et on l'avale bien, moi, je trouve. C'est la force incroyable de ce Paradise Killer, c'est qu'on a cet univers avec des règles très particulières. Et c'est quand même très bizarre d'avoir décidé de prendre un univers avec des règles aussi perchées dans un jeu d'enquête où justement tu as besoin de règles claires, tu as besoin de liens de cause à effet logiques entre ce qui se passe. Mais au fur et à mesure que tu vas avancer, en fait, le jeu va t'apprendre en fait, les règles de cet univers-là. Tu vas finir par les comprendre, tu vas finir par les intégrer, tu vas finir par te construire dans ta tête en fait, toutes les lois, toutes les manières dont les gens réfléchissent, toutes les intrigues politiques qu'il y a pu avoir pendant les milliers d'années où tu étais en exil en plus. Parce que le jeu donc, utilise ce prétexte de l'exil pour avoir mis toute une backstory, encore une fois, un autre anglicisme, je suis désolé pour nos auditeurs, mais toute une histoire en fait, qui a eu lieu pendant que tu n'étais pas là et où tu dois rattraper qui aime qui déteste qui a couché avec qui. C'est très très important dans Paradise Killer pour comprendre en fait qui sont les suspects, quels sont les mobiles en cours, qui a pu faire le coup, parce que tout le monde n'a pas les mêmes possibilités dans ce monde-là. Et c'est toute la force de Paradise Killer, c'est de réussir au forceps presque à te faire rentrer mais des conneries dans la tête et ensuite te faire utiliser ces conneries pour échafauder des théories sur le meurtre le plus compliqué de l'histoire des meurtres. Quoi. Clairement, c'est hallucinant. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils y arrivent. Ils y arrivent. J'ai jamais. En fait, ça, ils y arrivent au point que la nuit, ça vous hante, quoi. Enfin, t'es là, tu joues à Paradise Killer, tu rentres dans le truc là, tu rentres dans cet univers hallucinant. Tu parles à des gens aux noms incroyables comme Doom Jazz, Witness to the End. On dirait que les mecs, ils ont des noms de ils ont cru qu'il fallait choisir leur nom comme s'ils choisissaient un nom de groupe de rock. Non, tout est comme ça. En plus, il y en a, c'est des squelettes, il y en a, ils ont des têtes de bouc. C'est que des trucs comme ça hallucinants. Et la nuit, tu vas te coucher, t'arrêtes de jouer à Paradise Killer et t'es encore en train de réfléchir. Non, mais attends. Si Doom Jazz, il était là-bas à ce moment-là et que si à minuit, il était à cet endroit-là et que le meurtre a eu lieu à minuit 5 et qu'il faut, il faut faire des rituels pour passer la porte là et que... Mais attends, ça peut pas être lui. Mais du coup, ce que m'a dit la fille à la tête de chef, c'est pas possible, faut que j'aille lui parler. Ça vous hante comme un bon polar, c'est hallucinant. J'ai jamais été autant fasciné par un jeu en dehors du jeu. Vous voyez ce que je veux dire? Le jeu ne m'a jamais autant poursuivi dans la réflexion, dans la démarche d'inspecteur en dehors même du jeu. C'est-à-dire qu'il y a très très peu de mécanique. Parce qu'il faut savoir quelque chose dans Paradise Killer, c'est que le procès, vous le lancez quand vous voulez. Vous le lancez quand vous êtes prêt, quand vous avez récupéré suffisamment d'indices, quand vous êtes satisfait avec votre réflexion. Et ça, je trouve que c'est à la fois la force et c'est quand même ultra couillu comme démarche. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait lancer le jeu, aller voir le juge, faire « Non mais c'est bon, je sais qui a fait le coup, hein, c'est a priori le mec que tout le monde a décidé que c'était lui et que tous les indices pointent sur lui. » Évidemment, l'affaire est plus compliquée que ça, mais on peut le faire si on a envie de le faire. Et le jeu se terminera sur « Oui, bah, c'était lui en fait. C'était le mec qui a été dénoncé coupable dès le départ. »
Ça se passe comment, justement, le processus de déduction in-game, quoi? Quand toi, tu peux faire ton cheminement, mais ça se traduit comment dans le gameplay?
Alors, dans le gameplay, les seuls inputs que le joueur va avoir, c'est de se déplacer donc, dans le monde ouvert, aller discuter à différentes personnes, ce qui va débloquer de nouveaux arbres en fait, de dialogue. Quand tu vas parler à d'autres gens avec qui vous avez parlé, vous avez parlé à A de B, vous allez parler à B, ça va débloquer un nouveau dialogue chez B, vous comprenez? Et vous allez avoir de nouveaux éléments, etc. Et il y a tout un système d'interface utilisateur qui est très bien foutu, mais vraiment, mais c'est... Écoute, Erwan, le monde, l'univers est aussi compliqué que l'interface utilisateur pour t'expliquer ce qui se passe. Et bien fait. C'est, ça aide vraiment à tout comprendre d'ailleurs. C'est-à-dire que tu peux ouvrir ton ordinateur, on te donne un ordinateur au départ, et il y a une espèce de timeline pour te résumer en fait les grandes étapes historiques du monde de manière très très rapide. Mais ça te permet déjà de comprendre que t'es pas dans un univers normal et que les unités de temps sont plutôt en millénaires et pas en dizaines d'années ou en années. Et donc ça te met vraiment dans l'ambiance. Et l'autre moyen d'interagir avec l'aspect, on va dire, gameplay de déduction et d'enquête, Marius, c'est durant le procès, et j'en dirai pas plus sur le procès parce que comme c'est un petit peu l'explosion, enfin la conclusion, le feu d'artifice final de l'enquête, en gros, la seule chose qu'on va vous demander, c'est de présenter des suspects. C'est-à-dire, on va vous dire qui a fait ça, et tu dois dire qui a fait ça. C'est tout. C'est tout ce que tu as à faire. Sachant que l'écriture de l'affaire et l'écriture, on va dire, de tout ce qui se passe est suffisamment complexe et tortueuse et sinueuse et comment dire, tentaculaire pour que vraiment certains moments ça soit sujet à interprétation. Mais vraiment, il y a des moments, je pense pouvoir le dire, mais je pense avoir tout fait dans le jeu, je pense avoir vraiment parlé à tout le monde, fouillé, trouvé tous les indices. Je ne suis pas tout à fait sûr de qui a fait le coup. Donc, c'est à vous de faire les déductions à la fin. C'est à vous d'être en paix avec vous-même, avec vos déductions, avec ce que vous pensez être la justice finalement, ce qui sépare en fait dans le jeu entre la vérité et les faits. Et ça, mais c'est la première fois que je vois ça dans un jeu d'enquête. C'est un peu à la Horror Story. En fait, on est vraiment à mi-chemin entre un Phoenix Wright, Danganronpa et un Horror Story. Ou un Horror Story, c'est pareil finalement. On s'en va quand on est satisfait. On s'en va quand on pense avoir compris l'affaire. Là, c'est un peu la même chose. C'est un peu plus structuré, mais c'est un peu la même chose. Et pour un jeu de ce type-là, qui est quand même très codifié, hein, enfin tout ce qui est Danganronpa et Phoenix Wright, c'est très codifié. C'est quand même très, 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 très... Ouais, c'est très osé d'avoir fait ça. Moi, j'aime beaucoup. Alors après, et je vous en parle avec beaucoup de passion parce que j'ai vraiment passé un excellent moment sur Paradise Killer. Le jeu a ses défauts. Il est notamment beaucoup... L'île, en fait, est en open world et est beaucoup trop grande pour son propre bien, très clairement. On passe beaucoup de temps à visiter des lieux désertés.
Sachant que, et c'est important de le noter, c'est un jeu en 3D vue subjective. Donc oui. Pour quelque chose qui est plus un visual novel, c'est important à signaler, c'est-à-dire que on se retrouve avec une touche de saut, quoi.
Oui.
On se retrouve avec une touche de saut dans un visual novel, ce qui est un peu chelou comme choix.
Donc il y a des passages de plateforme, on aurait clairement pu s'en passer. Le jeu vous octroie par moment, et d'ailleurs c'est un conseil si vous décidez de vous lancer dans Paradise Killer, c'est d'aller chercher les power-up dès que possible. C'est des bains de pieds, parce que pourquoi pas, il faut trouver les bains de pieds et ça vous donnera notamment des power-ups du style double saut, ce genre de choses. Il y a deux bains de pieds à trouver, je vous conseille de les trouver vite parce que ça vous sauve la vie. Mais voilà, le monde est trop grand et ça c'est peut-être le défaut. Alors par contre, le monde est crédible, ça c'est bien, c'est-à-dire qu'il n'est pas vide. Il y a plein de choses à voir, l'univers parle de lui-même, mais il est beaucoup trop grand, ce qui fait qu'on passe beaucoup de temps des fois à marcher pour rien et passer à côté d'indices parfois. Ça c'est vraiment dommage, et surtout, et ça je trouve ça incompréhensible, le fast travel est payant, c'est-à-dire qu'il y a un personnage qui vous permet de vous déplacer partout dans l'île vers les points de sauvegarde que vous aurez débloqués, et il faut donner de l'argent que vous trouvez un peu partout dans le monde en fouillant un petit peu, mais je pense que le jeu gagnerait à vous donner le déplacement gratuit. Ça je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Je pense que c'est un peu de l'idéologie de gameplay, un petit peu de dire non c'est payant de se déplacer rapidement, vous devez explorer. En fait, je pense qu'il devrait devenir gratuit au bout d'un moment. C'est vrai qu'au début, explorer l'île, c'est important pour comprendre qui a pu se déplacer où à quel moment, pour vraiment intégrer les lieux, bien comprendre ce qui se passe. Mais au bout d'un moment, je pense que le fast travel devrait être gratuit. Après, mais... visiter l'île, c'est sympa aussi.
Ah ouais. Mais écoute, moi franchement, ce qui m'a, j'ai pas persévéré plus que ça, tout simplement parce que je l'ai aussi lancé hier, hein, donc c'était vraiment bien pour sûr. Voir de quoi est-ce que on allait parler. Mais ce que là où je serais un peu critique, c'est que en termes d'univers complètement barré, ben j'ai cité Danganronpa parce que c'était la référence évidente dans les jeux un peu de ce type de jeux d'enquête, visual novel et tout ça. Mais dans Danganronpa, ils te font rentrer dans leur côté totalement barré. C'est-à-dire que, alors, et ça va vite, hein, c'est tu joues un étudiant, t'es dans la rue, tu rentres dans une école spéciale, tout ça, et tu rencontres des gens spéciaux et tout. Mais ils te font rentrer dedans. Alors, ça prend 2 minutes là où t'aimerais bien que ça prenne une demi-heure parfois, mais au moins ils ont cette démarche. Et j'ai trouvé que dans Paradise Killer, c'est écoute, défonce la porte tout seul parce qu'on va pas t'aider à rentrer chez nous en fait. Et
ça peut être violent.
Et du coup, je trouve ça un peu pas super accueillant en fait.
C'est pas accueillant, ça je te l'accorde volontiers. L'univers au départ est presque, vous donne presque la nausée. Alors faut aussi préciser que la direction artistique est tout à fait cohérente avec l'univers, avec l'ambiance qu'on veut mettre. Donc c'est Vaporwave à fond. Hein. Mmh. Donc apprêtez-vous à voir des palmiers, des couchers de soleil, de la low-tech, des pixels, de l'imagerie mythologique utilisée n'importe comment, des musiques très caractéristiques des années 80 avec énormément de saxo. Il faut aimer le saxo. Alors là, il faut aimer le saxo, c'est très important. Il y a du rose, il y a du bleu, il y a des aurores boréales en plein jour. Enfin bon, il y a des pyramides dans la mer. Enfin, ce genre de choses. Vous voyez un petit peu l'idée, quoi. C'est un mauvais goût hallucinant. Même les personnages ont des tronches incroyables. Voilà, ils sont habillés n'importe comment. On dirait du Jojo un petit peu, Marius, si tu vois le genre. On est toujours entre
dégoût. Le chara-design est compliqué quand même.
Je trouve le car design excellent, moi. Je trouve le car design excellent, moi. Mais après, c'est un car. C'est comme il y en a qui n'aiment pas Jojo.
Moi, j'aime bien Jojo, ça a une identité graphique qui est quand même super forte. Là, j'ai l'impression que le trait des personnages est beaucoup plus lambda que.
Ah, je ne suis pas d'accord. Mais bon, on peut pas être aussi à la. Moi, je compare avec Jojo parce que c'est ce que ça m'a rappelé notamment au niveau
Le côté outrancier, quoi.
Ouais. Le côté outrancier, absolument. Mais évidemment qu'on n'est pas... c'est un maître. Je ne connais pas le nom du mangaka qui est derrière Jojo, mais on est un petit peu dans cette idée-là. Et on ne voit pas ça si souvent dans le jeu vidéo. Donc, je suis content de voir ça aussi dans le jeu vidéo. Mais voilà, on est toujours un petit peu entre le dégoût, la fascination, l'ébahissement. C'est un monde qui est là pour vous choquer. C'est un monde qui est là pour pas vous caresser dans le sens du poil. C'est ni mignon, ni bon goût. Mais ça peut être beau dans son mauvais goût, si vous voyez ce que je veux dire.
Et ça,
plus l'univers qu'on vous balance à la figure immédiatement, Erwan, je suis d'accord, au début, c'est violent et ça peut être, ça peut rebuter.
Ouais.
Malgré tout ça, encore une fois, lui du jeu, plus l'écriture excellente, font qu'une fois passé ce premier choc, on est fasciné, on est dedans, on veut savoir qui a fait le coup. Et je ne peux que le recommander aux fans de jeux d'enquête. Aux fans, évidemment, si vous avez aimé Danganronpa, il y a plus de chances que vous aimiez ce genre de jeu. Et si l'esthétique Vaporwave vous sort par les trous de nez déjà, je ne le recommande pas. Mais c'est vraiment, je trouve que c'est un tour de force qu'ils ont réussi à faire. Et c'est vraiment un jeu qui m'a marqué et qui va rester longtemps en mémoire en ce qui me concerne et que je recommande très fortement.
Et à votre avis, il vaut combien ?
17 euros.
17 euros, mais oui. 7 euros sur Steam.
Et sur Switch, c'est logique.
Et sur Switch, 20.
C'est incroyable, cette ligne éditoriale. Non, 17 euros, je trouve. Merci beaucoup. C'est fini pour cette semaine avec les jeux vidéo. Merci à tous les trois d'avoir été là pour en parler, pour parler de tout ça. Mais ce n'est pas encore fini, car c'est la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi ? On va commencer par toi, Julie.
Oui, bah alors moi en ce moment, je suis récemment allée aux puces de Vanves où j'ai récupéré un puzzle. Malheureusement, les auditeurs le verront pas, mais je ferai le côté un peu ASMR pour les auditeurs.
Vas-y, montre la caméra.
Et donc c'est un puzzle de 69 édité par Milton Bradley qui représente donc l'équipage de Apollo 11, donc avec la gueule de Buzz Aldrin, Michael Collins et Neil Armstrong.
On dirait de la propagande.
Et c'est clair. Je trouve ça vraiment méga beau, quoi. Avec la lune derrière, la terre. Enfin, bref, c'est. Et en fait, ça n'a pas l'air comme ça, hein, mais j'ai énormément galéré sur le vide intersidéral que vous voyez ici et sur les fronts de nos trois protagonistes. Mais voilà, en fait, pendant le confinement, je m'étais dit que j'étais ultra frustrée de ne pas avoir eu de puzzle et qu'il était peut-être temps que je me mette au puzzle dit pour adultes, à savoir ceux qui font au moins 500 pièces minimum.
Il a combien de pièces, celui-là ?
Bah, seulement 500 en fait, finalement je l'ai fini assez vite. Mais là j'ai qu'une envie, c'est d'en choper un autre et peut-être un jour d'atteindre le niveau de mon oncle qui a passé le plus clair de son existence à faire des puzzles de 5000 pièces qui représentent que des camaïeux de gris. Bref.
Oh là là.
Peut-être un jour, peut-être un jour quand j'aurai la maturité. Quoi.
Est-ce que tu aimes les puzzles sans bord qui ont des pièces en trop?
Ah ouais, non, ça par contre, non, ça c'est pour les déviants.
Ah oui. T'as des puzzles qui n'ont pas de bord, donc c'est la forme du puzzle n'est pas carrée, et il y a des pièces intruses, donc qui ne servent à rien.
Dégueulasse.
Mais quel enfer. Mais il n'y a tellement pas d'intérêt, quoi. Corentin.
Great Pretender, c'est sur Netflix. C'est une série par le studio d'Attaque des Titans, et donc pas un mauvais studio, mais. Bon, c'est pas Trigger non plus, quoi. Bon, je m'attendais pas à grand-chose de cette série-là, mais je suis tombé sur une. Enfin, moi, j'ai trouvé une excellente série. On est sur une série de cambriolage à la Ocean's Eleven, un petit peu autour du monde, avec différentes affaires, à Los Angeles, à Singapour, à Londres. Donc, on voyage pas mal. On suit Makoto Edamura, c'est un petit escroc du Japon, et il va tenter de faire les poches de Laurent Thierry, qui, vous l'aurez deviné, est français et qui est un touriste qui visite l'archipel. Sauf que, plot twist, en fait, Thierry Laurent, c'est lui-même un escroc et un escroc de classe internationale. Donc, il va finalement l'embarquer et l'intégrer dans son équipe de personnages en couleur pour faire des casses partout dans le monde. Voilà, et réparti sur toute la saison pour faire différentes escroqueries. L'ADA est impeccable, moi, je trouve, avec des dégradés de couleurs un petit peu comme dans des cahiers de coloriage, vers les différentes couleurs sont séparées presque par des traits, finalement. On a des choix de musique qui sont assez bons, avec beaucoup de cette ambiance musicale de films de casse, jazz et tout ça. Et un générique de fin, The Great Pretender, forcément, puisque la série s'appelle Great Pretender. Donc, The Great Pretender par Freddie Mercury, qui, dans le générique de fin, est chanté par des petits chats. Et ça vaut le coup quand même d'être vu, je pense. Les dialogues sont bons, l'intrigue est bonne, enfin l'intrigue est palpitante. On peut quand même reprocher l'aspect un peu caricatural du film de casse. Je ne sais pas si vous avez vu dans la dernière saison de Rick and Morty, il y a un épisode qui parodie les films de casse. On est un peu là-dedans. C'est-à-dire, c'est des gens qui se doublent mentalement, qui se triplent mentalement. Non, mais moi j'avais un plan, mais moi j'avais un contre-plan. Non, mais moi la semaine dernière j'avais pensé à ton contre-plan et j'ai contré ton plan avant ça. Mais comme c'est bien rythmé, que les dialogues marchent bien, qu'on s'attache au personnage, ça marche bien. Donc, on laisse son incrédulité de côté pour ce coup-là. Il y a 14 épisodes qui sont déjà disponibles sur Netflix. Il y en a 9 qui arrivent en novembre. Et surtout, ces 9 qui arrivent, c'est une seule et même affaire. Donc, je suis un peu curieux de voir ce qui va se passer. Et je recommande donc The Great Pretender. C'est sur Netflix.
T'as été voir Lupin, puisqu'on est sur le Japon?
Pas encore, je vais voir Lupin. Mais je vais voir Lupin, mais je suis confiné. Je suis confiné, Marius.
Ah, oui. Ouais, excuse-moi.
Je suis qu'à contact, Marius.
Marius, justement.
Moi, j'ai pas fait grand-chose à part Baldur. Ce que je peux vous dire, ce que je peux vous conseiller, mais c'est pas encore sorti, mais c'est magnifique. C'est le coffret intégral des romans gravés muets de Lynd Ward, qui est un auteur américain du début du XXe siècle. En gros, il écrit C'est des ancêtres du roman graphique, ça c'est comme ça qu'on le vend en gros. Tous les romans muets, c'est des ancêtres du roman graphique. Lui, il commence en 29 et il finit en 37. Et c'est sublime, franchement. En dehors de ce côté un peu précurseur, les bouquins sont vraiment très très beaux sur tout ce qui se passe à l'époque. C'est sur à la fois la vie d'artiste et l'effondrement moral presque civilisationnel de l'Amérique. Pendant la Grande Dépression, c'est très 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 beau, très puissant, assez différent finalement des romans graphiques qu'on peut imaginer aujourd'hui, parce que il y a du séquentiel, mais pas exactement. Enfin, c'est vraiment sublime. Et si vous êtes un peu indifférent à ce côté lecture bobo, l'autre truc que je peux vous vendre, c'est que j'ai commencé à mettre le doigt dans les actual play, qui est l'équivalent de Twitch pour les jeux de rôle. Et je trouve ça très rigolo. Je me suis regardé une partie de l'appel de Cthulhu qui m'a rappelé des très très bons souvenirs. Je découvre ça, voilà. Je me mets à jour sur le jeu de rôle.
Non, c'est vrai que ça marche bien, le jeu de rôle. C'est vrai que depuis quelques années, les jeux de rôle filmés en live, c'est vraiment...
Ouais, là je regarde la chaîne de Roll and Play et c'est vraiment chouette.
Ouais, le stream en a... Ouais, non, c'est pas mal.
Et ça avait commencé notamment sur No Life, hein, qui avait fait leurs émissions de jeux de rôle filmés.
Ouais, moi, ça fait 20 ans que je n'ai pas fait un jeu de rôle, et franchement, ça, Ça me titille très fort maintenant.
Bah avec tous les moyens, mine de rien, avec tous les outils aujourd'hui qui nous permettent de le faire à distance, je pense que ça
on pourrait
peut...
faire bah... des... On pourrait faire des jeux de rôle au lieu de faire Silence on joue, ouais. Le matin,
c'est vrai. Non, mais c'est vrai que le jeu de rôle, tout comme les jeux de société d'ailleurs, parce que je suis plus jeu de société que jeu de rôle, mais c'est vrai qu'il faut se déplacer, il faut organiser la soirée, il faut se libérer, il faut... Là, vu qu'on peut tout faire en ligne presque, avec plein d'outils en plus, d'ailleurs, on peut pas besoin de sortir CD, on peut avoir des dés numériques et tout. Enfin, honnêtement, je trouve qu'il n'y a pas meilleur moment pour commencer le jeu de rôle que maintenant, quoi. Je trouve ça bien.
Ouais. Alors après, il y a un plaisir de la bulle aussi quand tu joues avec des potes. C'est,
tu
t'enfermes
chips,
pendant 6 heures et plus rien d'autre n'existe que ça, quoi. Ouais. Alors que là, en numérique, je pense que tu peux être attrapé en permanence par un gamin qui te saute dessus.
Mais le gouvernement en a décidé autrement, tu vas rester à la maison, mais Marius.
Oui. Ouais, sauf si on se déplace avant, il suffit d'arriver à 19h30 et de repartir à 7h.
Oui, mais moins de 6, attention.
Ouais, c'est vrai. Mais ça reste jouable, 6.
Oui, ça reste jouable.
Eh ben, pour ma part, les Lakers ont gagné. Hein. Voilà. Les Lakers ont gagné. Cette finale, enfin cette fin de saison et ces playoffs totalement dingues dans la bulle à Orlando. Enfin, c'est quelque chose de c'est quand même, on est quand même sur une dystopie chez nous. La NBA était dans une dystopie là. Enfin, c'était un roman cette fin de saison où tous les joueurs se retrouvaient dans une bulle. Enfin, bon, bref.
C'est une série HBO presque.
Non, mais tout ça, c'est un scénario, enfin, ça a rien de réel en fait. C'est très étonnant. J'en profite quand même parce que je dis ça, effectivement, les Lakers ont gagné. Et ben, j'en profite pour parler. Alors, je pense que tous les amateurs de NBA en France les connaissent, hein, mais je vais quand même parler de Bastien et Alex de la chaîne Trash Talk. Qui est donc un site d'actu de la NBA et qui ont aussi une chaîne YouTube. Donc Bastien et Alex sont deux membres un peu les deux représentants visibles de l'équipe de Trash Talk, et ils font sur leur chaîne YouTube, voilà, ils font des petites émissions, des talks sur la NBA, et notamment sur toute cette saison. Durant toute cette saison, c'est sur le point de finir. Ils ont fait toute une série une fois par semaine sur leur top 100 all-time des joueurs NBA. Donc c'est vraiment le grand truc totalement subjectif où il y a des énormes débats sur qui est dans le top 50, qui sont les 10 meilleurs joueurs, qui sont le GOAT, donc le gamer of all time de la NBA. Est-ce que c'est LeBron James? Est-ce que c'est Michael Jordan? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre que Michael Jordan déjà? Bref, c'est et en fait le truc, c'est que à partir de ce pitch qui est finalement très très commun et que tu n'as pas envie de regarder, bah, je trouve que Bastien et Alex, ils ont une sorte d'érudition joyeuse et assez bienveillante, où ils accueillent les gens et ils racontent les trucs. C'est-à-dire que ce n'est pas que le moment où on se met sur la gueule, mais bah, ils passent peut-être 20 minutes. Alors maintenant, c'est peut-être plus une heure par joueur, parce que là, il ne reste plus que deux émissions. Il ne reste plus que quatre joueurs à être dévoilés de leur top 100 all-time qu'ils ont commencé en septembre 2019. Donc voilà, je ne vais pas vous dire lesquels quatre derniers.
Si, s'il te plaît, tu vas nous les donner. Il manque qui?
Il manque Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Michael Jordan et LeBron James.
Et LeBron.
Voilà. En gros, parce que pour le coup, ils sont assez d'accord. Mais voilà, donc on ne sait pas encore dans quel ordre, mais on a passé dernièrement, on a passé Larry Bird, on a passé Will Chamberlain, on a passé Tim Duncan, etc., etc., etc. Bref, tout ça pour vous dire que c'est une chaîne hyper agréable pour qui suit la NBA et pour qui suit même de loin la NBA. C'est vraiment, cette érudition, et c'est sympathique, c'est super, et c'est super agréable à écouter. Alors qu'on ne voit qu'eux, parce qu'ils n'ont pas les droits pour diffuser les images NBA. Et donc, c'est vraiment un talk dans la plus pure tradition de YouTube. Mais c'est très 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 bon, parce qu'ils sont ils sont très bien. Voilà, c'était Trash Talk. Merci encore. Et puis et la grande question, c'est: est-ce qu'on se retrouve la semaine prochaine? Je n'en sais rien, parce que c'est les vacances. Donc il y a du suspense, je sais pas, je pense pas, parce que quand même j'ai posé mes jours de vacances et silence on joue avec le montage, ça met une journée. Enfin bon, bref. Donc probablement après seulement 3 épisodes, on va faire une semaine de pause, et puis on se retrouvera donc dans 15 jours pour parler de jeux vidéo sur libération.fr et sur les internets. Merci encore et ciao.
Yeah!